Merci beaucoup d'être là pour la quatrième séance du séminaire interdisciplinaire de la chaire d'études méditerranéennes du LabExMed qui se concentre aujourd'hui sur les acteurs du passage et du blocage des mobilités. C'est-à-dire que l'approche est une approche acteur qui n'exclut pas une approche espace, puisque nos deux intervenants travaillent sur des espaces très particulier et bien distinct, le Sahara d'un côté et de l'autre Israël-Palestine. Mais ce qu'ils vont avoir, disons, en commun et ce sur quoi ils vont pouvoir éventuellement échanger sur leur méthode concerne particulièrement ces acteurs qui vont permettre les mobilités ou au contraire les bloquer, qui vont les orienter. Et ils vont aussi, bien sûr, sans doute, nous montrer en quoi le contexte autour de ces acteurs permet ce rôle des acteurs dans le passage et le blocage des mobilités. Alors nous recevons Charles Grémond, qui est historien, chercheur à l'IRD, au LPED, le laboratoire Population, Environnement, Développement, et qui travaille donc sur le Sahara, et Cédric Parizeau, anthropologue du politique, qui est chercheur au CNRS, rattaché à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, et qui, lui, travaille sur les territoires israélo-palestiniens. Nous allons commencer par l'intervention de Charles Grémond, qui s'intitule « Quand des nomades contrôlent le mouvement des autres, des Sahariens passeurs et rançonneurs ». Donc on commence par un petit extrait de film avant d'avoir l'intervention de Charles.
Bonjour. Alors, oui, effectivement, soit je lance tout de suite ou soit je donne deux mots au préalable. Donc, je vais faire une communication en fait, qui est au carrefour de plusieurs de mes travaux, de plusieurs de mes réflexions, certaines engagées depuis longtemps et d'autres un peu plus récentes. J'ai parmi mes amis collègues des gens qui travaillent sur la question des migrations depuis au moins une bonne quinzaine d'années. Donc j'ai cheminé un petit peu avec eux, mais sans en faire jamais mon thème de recherche central. Moi, j'ai travaillé en tant qu'historien, enfin une histoire très anthropologique, donc dans les zones sahéliennes et sahariennes, dans le nord du Mali principalement, au nord du Niger aussi un petit peu, sur des questions d'histoire sociale, sur des questions de révolte, sur des questions d'histoire orale aussi, en balayant une période assez large d'histoire précoloniale. J'ai fait un doctorat dont le point d'ancrage était au XVIIe siècle, sur essayer de reconstituer la formation d'une entité politique multiethnique avec des Touaregs qui dirigeaient ça. Et donc voilà, donc c'est surtout un ancrage géographique qui se situe donc dans cet espace immense qui est le nord du Mali, le nord du Niger, le sud de l'Algérie, la Libye et tout ce qui communique. Et on verra d'ailleurs, Delphine, quand tu disais qu'on travaillait sur des espaces distincts, pas si distincts que ça, parce qu'il y a un endroit où ces dynamiques se rencontrent avec Cédric, dans le Sinaï, là notamment, il y a une fluidité qui remonte. Enfin, il y a des événements qui se produisent dans le Sinaï et qui se déplacent vers la Libye, etc. Donc il y aura quand même un trait d'union sur le plan géographique. Donc voilà. Donc la question de la démigration, je commence à l'aborder un petit peu, mais depuis pas longtemps, à travers un séjour notamment que j'ai fait au Maroc en 2015. À Rabat avec des collègues du LPED, là, Sylvie Brodelou, Sophie Bava notamment. Et on travaillait justement sur la question des objets, avec quels objets les voyageurs, les aventuriers, les migrants se déplacent-ils. Et c'était un atelier organisé avec des conservateurs là, du musée, avec des artistes, avec des étudiants. Et je suis rentré en contact par ce biais-là avec des Maliens du sud du Mali qui avaient justement fait la route et qui étaient en voyage, stationnés au Maroc, à Rabat, à ce moment-là, et qui pour certains avaient envie de passer vers l'Europe et qui d'autres se demandaient si c'était la bonne idée ou non, quoi. Et donc à ce moment-là, ce sont vraiment ces personnes-là, dans les entretiens que j'ai pu faire avec elles, qui m'ont reconnecté avec l'espace qui m'était familier, donc le nord du Mali, les régions de Gao, de Kidal et de Menaka, dans lesquelles, comme vous le savez, on ne peut plus se rendre actuellement, d'abord pour des questions d'interdiction, quand on devient chercheur statutaire, c'est formellement interdit de se rendre là-bas, donc à moins de prendre des vacances et de poser des congés, etc. Chose que j'ai pu faire pour Agadez, mais là, réellement, le nord du Mali devient dangereux. Donc j'ai reconnecté, enfin, mon dernier séjour dans la région de Gao remonte à 2011, début 2011. Et donc j'ai reconnecté avec cet espace à partir du Maroc avec d'autres personnes, en voyage aussi avec les migrants. Voilà. Donc je vous présente 10 minutes d'un extrait d'entretien pour rentrer un peu dans le vif du sujet avec l'entretien de Mohamed Samaké. Alors, le son est plutôt bon, je crois. Parfois, il articule pas forcément très bien. Moi, je suis habitué à cet accent du Mali aussi. Il y a un moment donné, il parle de la MINUSMA. La MINUSMA, c'est l'opération de l'ONU de maintien de la paix qui est engagée au Mali depuis 2013. Voilà, je crois que c'est le seul terme véritablement qui pourra vous servir. Et voilà.
Tu peux nous raconter un peu plus précisément le périple de ce moment?
Bon, l'aventure, c'est à Gao. Parce que, on va voir, ça c'est magnifique. Mais Gao à l'Algérie, c'est le commencement des aventures. Bon, des Gao à l'Algérie, c'est ça qui est un pays difficile. C'est ça qui est un pays difficile. Parce que, quand j'étais à Gao, j'avais des troupes de rebelles à Gao qui font arrêter les véhicules qui transportaient les matériels de munitions au bout. Alors, pour que les rebelles de munitions ne peuvent pas sortir de Gao, de Mambo à Gao. Bon, et moi j'ai trois secrets. Moi j'étais parti avec une grève de 3 jours. Bon, donc j'ai attendu cette voiture-là, j'étais avec mon copain et mon fils, le fils de ma grand-sœur. On a fait 3 jours encore. On a fait 3 jours. On a pris la route d'Algérie.
C'est vrai? Oui.
Je disais que les fonctionnaires et les chauffeurs et les rebelles, ils sont tous les hommes. Les fonctionnaires,
les gens de complices.
Et si tu parles alors, il y a une grave pour les fonctionnaires.
Les chauffeurs,
c'est un toilette.
C'est une zone de business. Les cocktails vous mettent dans les mains des cheveux, les cheveux vous mettent dans les mains des rebelles. Ma chère rebelle, tu es obligé de payer. Tu es obligé de payer. Il y a des gens aussi, bon, moi je n'ai pas appris ça, mais comme nous sommes tous là, on discute. Il y a des gens qui font tout ça. Ils vont dire qu'il faut appeler tes parents. Si tu t'as dit que tu n'as pas d'argent, tes enfants sont sur tes parents. Quand tu dis qu'il n'y a pas de problème, il faut appeler tes parents pour qu'ils fassent le transfert pour les monnaies. Les 5 000 par jour, on va prendre 5 000 par jour. Et on peut les donner comme on le fait. Donc si tes parents font le transfert pour les monnaies, tu ne vas rien. Vous ne pouvez rien parler de 5 salles si vous tentez de croire que les gens ne vont pas vous laisser là-bas. Lui, il connaît l'endroit où il est, mais vous, il ne connaît rien.
Et dans vos missions, c'est quoi? C'est un véhicule?
C'est un sable.
Il n'y a rien?
Il n'y a rien. Même un bout de feu, il y a un bout. Là-haut aussi, chaque personne doit payer 25 000 francs par ce
temps. Absolument.
Chaque personne doit aller à Pierre. Chaque personne doit payer 25 000 francs par ce temps. Si tu ne payes pas, il y a pas de problème. Tu ne laisses pas. Tu fais plus de 4 mois là-bas, chez lui. Tu manges une fois, pas de jour. Et tu fais des travaux. Et à chez lui. Il pleut, non, tu te fous de Dieu, quoi.
Ça va, vous avez le son? Vous avez compris? Ouais, c'était audible? Ouais, à peu près? Non? Oui? Ok. Alors, donc ça, c'était pour introduire un petit peu le sujet. Bon, ceux qui travaillent sur... les passages dans le Sahara ou ailleurs connaissent un peu toutes ces questions-là. Mais ça renseigne bien sur justement tous ces entrepreneurs du passage ou du blocage sur la route avec des contextes particuliers. Bon, j'ai quelques cartes aussi, mais je verrai. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, enfin, le point d'articulation un peu de mon intervention et ce qui m'occupe là depuis quelques années, c'est cette figure un peu renversée de ces rebelles, hein, Touareg, qui sont des pasteurs nomades. Je dis ça entre guillemets parce que là, les gens se sédentarisent beaucoup, mais en tout cas. Sont devenus, comme certains auteurs le disent, là, des nomades au sens ethnique. Enfin, quand on reprend le terme nomade, voilà, enfin, des gens qui quand même vivent du mouvement, ont ce savoir-faire, ont cette histoire ancienne. Et ce sont eux qui maintenant se posent sur leur territoire, soit sous des arbres ou au milieu de nulle part, et contraignent le mouvement des autres. Les autres qui sont ce jeune homme là qui est Samaké, là, Mohamed Samaké, il est graphiste, il travaille sur il fait des pochettes de disques, donc il travaille sur des outils informatiques. Je ne sais plus s'il est bachelier ou pas, mais c'est quelqu'un qui vit donc à Bamako, qui est né grandi là-bas, dans une ville, et qui prend la route. Donc quelqu'un qui est plutôt, selon les représentations communes, on va dire sédentaire, où il y a aussi beaucoup de migrants qui viennent de zones agricoles. Et donc cette question-là de nomades qui ont été perturbés là, dans leur mouvement depuis la colonisation française pour cette zone-là, on pourrait parler d'autres zones aussi, qui sont perturbés par les douanes, les polices, les États, etc., enfin, qui en font un jeu, se mettent eux-mêmes à contrôler le mouvement des autres et à les arrêter et à les freiner. Donc là, il y a quelque chose dont on reviendra sur la fin, et avec vos questions aussi, qui, moi, m'intéresse. Je ne sais pas dans quel... jusqu'où ça peut nous conduire, mais en tous les cas, est une figure intéressante sur un basculement du monde, ou alors justement, peut-être qu'on est toujours dans les logiques de la mobilité. Mon intervention sera en deux points. Une première partie plus descriptive sur les conditions du voyage, à partir notamment de ce que peut raconter Samaké dans son témoignage, les conditions du voyage, les conditions des rencontres avec les différentes personnes. Donc ça va du chauffeur, des rebelles, les coxeurs, là je vous dirai tout à l'heure ce qu'est un coxeur, les courtiers. Et aussi, je ferai une description un petit peu des contextes pour, dans une deuxième partie, avoir un regard un petit peu plus théorique sur la notion de mobilité qui m'intéresse aussi beaucoup. Et où là, je mobiliserai notamment deux auteurs, un sociologue et un géographe, qui sont Alain Bourdin pour le sociologue et Denis Retailler pour le géographe, et qui peut nous permettre d'éclairer justement cette... ce que Retailler appelle l'espace mobile. Alors, commençons donc par les conditions du voyage, avec un petit point quand même sur la présentation de mes sources, à partir d'où je parle. Donc, bon, j'ai fait quelques entretiens ici au Maroc, là, ce n'est que le début. Je n'ai malheureusement pas l'autre partie, c'est-à-dire interroger à la fois les chauffeurs et les rebelles qui ont rencontré les migrants aventuriers. Je dis toujours migrants aventuriers, comme vous avez... comme le dit Samaké, lui, il fait l'aventure. Le mot migrant, il ne l'a jamais utilisé pendant plus d'une heure là, d'entretien. Et voilà, on est là pour l'aventure, pour aller voir un petit peu devant, pour réaliser quelque chose, pour gagner un peu d'argent. Ou en tous les cas, cette notion d'aventure qui a été bien mise en exergue par Sylvie Brodou là, dans son dernier bouquin, notamment. Donc, alors... Samaké nous dit d'abord, le début de son périple, il dit de Bamako à Gao, ça c'est toujours le Mali. Il dit après, c'est là que l'aventure commence, à partir de Gao. Donc cette formulation, elle est assez intéressante parce que c'est le Mali toujours, en fait, ça renvoie aux conditions là, du transport sur la route et qui sont celles simplement du goudron. C'est une route goudronnée qui part de Bamako et qui se termine. À Gao. Après, ils ont refait un goudron il y a 6 ou 8 ans qui descend vers le Niger et vers Niamey, mais avec une petite partie qui n'est pas faite encore. Mais en tous les cas, pour continuer le voyage ou le périple vers le nord, les routes goudronnées s'arrêtent. Donc, c'est le Mali toujours. Et le transport, à ce moment-là, se fait tout simplement en empruntant le car. Donc, des sociétés de car qui se sont beaucoup développées ces 15 dernières années dans toute l'Afrique de l'Ouest, avec des nouvelles routes, avec plein de nouvelles compagnies. Ça, je renvoie notamment aux travaux de Jérôme Lombard, hein, qui est géographe mbaliardé, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, voilà. Donc là, un chauffeur de l'aide de car n'est pas appelé un passeur. C'est quelqu'un qui travaille là pour une société et qui fait... Enfin, voilà, une société, lui, c'est un employé aussi, et prend des tickets aux voyageurs. Donc c'est a priori simple, en tous les cas, là, pour Samaké, qui quitte le Bamako, qui est lui-même malien. Mais c'est un petit peu moins simple si on n'est pas malien, déjà. Et un peu moins encore quand la région est essaimée par des bandits ou par d'autres groupes armés, ce qui est exactement le cas du Mali actuellement, depuis 2012, mais ça se renforce encore maintenant. Le centre du pays il devient une zone aussi avec des nouveaux groupes armés, djihadistes ou autres, donc... La route est souvent coupée, donc voilà, on prend le car, mais il y a des attaques assez régulières. Et quand on n'est pas malien aussi, et quand on ne connaît pas forcément la route, alors là, c'est là où je vous parlais des sources, donc il y a pas mal d'articles de presse qui sont rédigés par des journalistes ou par n'importe quelle personne du pays, aussi par des associations de protection pour les migrants, qui enquêtent un petit peu sur cet axe-là et qui nous permettent d'avoir quelques informations. Donc, là, quand on se documente auprès de ces sources, on voit que les arnaques commencent aussi depuis les gares routières de Bamako, où certaines compagnies de transport affichent un prix du transport sur l'axe de Bamako jusqu'à l'Algérie. Alors que, enfin, n'importe quelle personne qui connaît un peu le Mali, c'est ce que je viens de vous dire, la route s'arrête au niveau de Gao. Il n'y a aucune compagnie de car qui transporte des passagers au-delà de cette route. Il y avait avant 2012, avant la rébellion, avant la guerre, une compagnie de car qui montait jusqu'à Kidal sur les pistes. On passait la journée sur la route pour faire 350 km. Et là, donc, on propose à ces voyageurs un billet de 60 000 francs CFA. Donc certains marchent là-dedans, alors que bon, à mon époque, moi, c'était on voyageait pour 12 000, Bamako Gao, je sais pas, Abdoulaye, maintenant c'est peut-être augmenté. 5 000, je crois. Combien ? 25 000. 25 000, ok. Donc là, les premières arnaques peuvent commencer un petit peu ici, quoi. Sur le trajet de Sévaré jusqu'à Gao, donc Sévaré se situe au centre du Mali, en fait, sur la route vers le nord, des passagers sont souvent forcés de payer aussi la somme de 1 000 jusqu'à 25 000 francs CFA à chaque poste. Donc là, il y a aussi toute cette corruption. Bon, il y a beaucoup de travaux réalisés là-dessus, sur les hommes en uniforme qui, si les voyageurs ne peuvent pas payer, on est vraiment dans une zone où les armes sont partout. Donc les douaniers ou comme les gendarmes rançonnent au même titre que d'autres groupes armés. Et donc ça peut aller jusqu'à une somme de 25 000 francs. Et parfois, quand on n'a pas les moyens de payer, les gens prennent le téléphone portable ou quelques richesses qu'ils puissent les démanteler.
C'est moins cher. Ouais. 1 000 francs CFA, ça fait combien ?
Alors, 1 000 francs CFA, ça fait 1,50 €.
D'accord.
C'est ça. Ouais, pardon. Voilà. Donc, juste pour mettre en exergue de Bamako jusqu'à Gao, ça, c'est le Mali toujours. Mais c'est aussi par le car, et ça, tout le monde le sait, que transitent, par exemple, les cargaisons de la drogue ou des armes dans des cantines ou dans des choses, avec des informations, avec des relais sur la route, parce qu'on a toujours l'image, et ça, je tiens à le préciser, que les méchants, hein, entre guillemets, les trafiquants, les djihadistes, se situent donc dans ce Sahara, qui est le lieu de tous les maux, en oubliant que, par exemple, le commerce de la cocaïne, qui est de plus en plus fort là, dans cette région du monde, arrive par les pays côtiers, par la Guinée, Bissau, par les îles, etc., et donc traverse les pays du sud sur des axes goudronnés avec toute une chaîne de complicité tout nouveau. Donc ce trajet sur la route n'est pas aussi légal ou sécurisé qu'on veut bien l'entendre, et surtout par les temps qui courent. Alors ensuite, Mohamed Samaké nous dit bon, c'est vraiment à partir de Gao là, que l'aventure commence. Et donc moi, j'imagine que voilà, c'est un peu dans la représentation de la majorité des gens. Donc quand le goudron s'arrête, on bascule là dans le monde de la clandestinité, de l'illégal, des mafias, des passeurs criminels, dans le monde des passeurs, en gros. Et si on s'intéresse simplement à la question de la migration. Et donc le passeur est devenu un peu la figure du méchant ou du mafieux. Bon, les politiques... que ce soit au Niger ou dans tous les pays de la sous-région ou comme au Mali, tape aussi sur le passeur en disant que c'est lui qui est responsable de la mort des gens en plein Sahara, etc. Alors que la figure du passeur, on pourra y revenir, n'a pas toujours été à ce point dévalorisée. Bon, j'ai simplement l'exemple des républicains espagnols qui, en 1936, faisaient passer les résistants qui étaient... plutôt, donc on les appelait passeurs déjà, qui était plutôt une image assez héroïque en fait du statut, de la figure du passeur. Et évidemment, se focaliser sur la figure du passeur permet de ne pas regarder ailleurs. Donc Samaké nous dit aussi, donc quand on arrive vers le Sahara, c'est une zone de business. Ok. Donc vous avez compris que ça l'est aussi à partir de Bamako déjà. Donc la mobilité des personnes est une ressource, au même titre donc, que plus au sud, mais selon effectivement des modalités un petit peu différentes, du fait des caractéristiques physiques et climatiques du terrain. On arrive vers le Sahara, donc avec des amplitudes thermiques très fortes, et il faut pouvoir s'équiper à la fois contre la chaleur, il faut pouvoir s'équiper à la fois contre le froid la nuit. Et on arrive effectivement dans des zones qui sont essaimées actuellement par des groupes armés, la guerre au Mali, la guerre en Libye, pour ceux qui prennent la route de l'Est, ou plus à l'Ouest aussi, en passant par l'Algérie. Donc ça, c'est tout ce contexte-là. Et dans le contexte géopolitique dont je vais vous parler, j'inclus également la pression de plus en plus forte des politiques européennes qui cherchent à lutter contre ce qu'ils appellent la migration clandestine et exportent leurs frontières jusque dans ces régions du Sahel. Donc tout ça fait partie d'un contexte, et je voudrais les traiter ensemble. Alors si on reste focalisé sur l'espace saharien, qui sont les entrepreneurs du passage? Qui fait un petit peu son économie ou son business, là, comme pourrait dire Samaké, autour du passage de ces aventuriers migrants? Donc ce sont les coxeurs là, dont parle Samaké. Alors coxeur, peut-être que tout le monde là, ne connaît pas ce mot. Les coxeurs, c'est un peu comme la définition qu'en donne Julien Brachet dans son bouquin, c'est des figures de la débrouille, ce sont des intermédiaires, ce sont des acteurs fluidifiants du secteur des transports. C'est souvent de jeunes citadins qui vivent en ville, qui connaissent bien les réseaux et qui, effectivement, prennent leur part pour diriger les voyageurs vers tel ou tel passeur, vers tel ou tel chauffeur. Samaquet parle aussi des temps passés dans les cours. Alors, en français, en Afrique de l'Ouest, on parle de cours. Ceux qui parlent anglais, qui viennent du Ghana ou du Nigeria, parlent plutôt de ghetto. Donc, ce sont ces zones où on attend et où le voyage se prépare. Donc, les logeurs, qui sont donc les propriétaires de ces cours ou de ces ghettos, les chauffeurs, qui sont généralement là des gens de la région, donc à partir de Gao, plutôt des chauffeurs Touareg qui connaissent bien le terrain, et également tous les métiers qui se greffent autour, donc des mécaniciens évidemment, les transporteurs de carburant, en passant par les cuisinières installées à la croisée des rues, dans toutes ces villes transites, les opérateurs de téléphonie, parce qu'il faut être lié en permanence avec le réseau qu'on a pu mobiliser, et sans oublier aussi, même s'ils se font plus rares, à partir de Gao, les gendarmes ou les policiers ou les douaniers qui aussi prennent leur part et prennent une part de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'une hiérarchie. Bon, ça, c'est aussi vieux comme le monde. C'est ce qu'on voyait déjà à l'époque de l'occupation coloniale. Donc j'insiste pas là-dessus parce qu'il y a eu de très nombreux travaux sur cette économie de transit. Je renvoie à Bali Ben Saad, à Julien Brachet dont j'ai parlé, et puis à bien d'autres, à Laurence Marfin, Vittel et autres. La multiplication des conflits armés dans la région est une des principales raisons de l'augmentation des sévices sur les migrants. Alors effectivement, là, Samaquet raconte que ce sont des rebelles Touareg. Si on passe avant 2012 et qu'on n'est plus dans la rébellion, on peut tomber sur des bandits. Là, on tombe sur ce qu'ils appellent, tout le monde les connaît, ce sont des rebelles Touareg, qui ont besoin aussi et ça, j'y reviendrai vers la fin sur l'éclairage un peu théorique, qui ont besoin de cette ressource que représentent les migrants, aussi pour leur tribu de guerre ou pour financer leur guerre. Donc, ça fait partie du contexte. Donc, les milices qui détiennent les armes seraient aussi fréquemment impliquées dans le commerce des réfugiés. Effectivement, on fait du business. On peut passer d'un coup à main armée, même une prise d'otage, au convoyage de migrants, etc., de manière très, très fluide. On organise par petits groupes, soit même sur des motos, puisque c'est aussi le nouvel engin qui représente bien et qui symbolise la mobilité dans ces coins-là et qui échappe au contrôle des radars américains ou français ou de la force Barkhane. Donc tout se joue vraiment dans ce mouvement. Et la situation est particulièrement grave aussi quand on continue le périple vers la Libye, où toutes ces bandes armées aussi se servent évidemment sur les voyageurs, sur les migrants de passage. Donc il y a eu des enquêtes menées par Amnesty International qui confirment le cas des mauvais traitements et des tortures infligées, alors soit par des groupes armés, soit par les autorités libyennes. Bon, on ne sait pas trop ce que signifie le terme d'autorité libyenne aujourd'hui. Et en fait, depuis la chute de Kadhafi, ça s'est démontré aussi par toutes ces associations-là, les activités des passeurs ont très nettement augmenté. Et alors, c'est quand même intéressant parce que malgré tout, bon, tout le monde suit l'actualité, effectivement, la route de la Libye pour aller tenter le passage là vers la mer devient de plus en plus dangereuse et pourtant elle reste fréquemment empruntée. Donc, ça pose question. Alors, pourquoi le maintien de cette route? Est-ce que c'est pas moins dangereux de passer plutôt par l'ouest, par l'Algérie ou par le Maroc? Donc, ça, c'est ce qu'il faudrait réussir à expliquer. Et qu'on peut expliquer aussi très bien avec la force des réseaux, avec les familles qui sont déjà installées dans le sud de la Libye, qui travaillent, qui peuvent faire office d'accueil pour les voyageurs de passage. Et bon, voilà, ça, c'est tout un pan de recherche. Là, il y a un étudiant qui travaille aussi avec moi sur la question de comment est-ce que l'information circule auprès de ces aventuriers migrants quand ils sont sur le départ à partir de Niamey, à partir de Bamako ou même plus loin. Quelle route emprunter? Donc là, je passe sur... Samaquet parle des sévices qui sont infligés aux voyageurs. Donc effectivement, donc moi j'ai appris que les gens, les rebelles Touareg avec qui je peux faire des entretiens, qui étaient un peu là, mes copains ou mes anciens copains, sont aussi ça. Enfin, à certains moments, dans la nuit ou le matin, peuvent faire descendre des gens dans un puits, peuvent les frapper, peuvent etc. pour leur extorquer quelque argent. Apparemment, là, la situation serait encore plus grave quand on remonte vers la Libye. Et même, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du désert du Sinaï, où il y aurait des véritables entreprises de prise d'otages. Je ne sais pas, Cédric, si tu as des informations là-dessus, où on séquestre les migrants et on arrive à faire payer des rançons à distance. Et c'est ce que raconte Samaké avec les transferts de Orange Money pour le Mali. Après, c'est d'autres opérateurs. Donc même sur des milliers de kilomètres, les voyageurs appellent leurs parents ou quelqu'un qui peut payer, et le voyage peut se poursuivre à travers du transfert d'argent. Il y a aussi d'autres modalités de transfert d'argent, mais je n'ai pas trop le temps de m'y arrêter là. Donc globalement, les pressions sur les aventuriers migrants sont de plus en plus violentes. Et surtout, la violence se banalise. Et ça, c'est, je pense, que tous ceux qui travaillent un peu dans ces régions-là. Enfin, moi, c'est mon cas. Voilà, on est complètement abasourdi quand on entend des témoignages comme celui-là. Alors, est-ce qu'on y prête plus attention? Est-ce que ça se passait il y a 15 ans là, ou il y a 20 ans? Après, vu la guerre et ce qui se passe dans le nord du Mali, effectivement, il y a toute une génération qui, depuis le début des années 2000, à travers le trafic de drogue, à travers toute cette question de la piraterie ou de la notion justement d'aventure. Les jeunes partent pour convoyer la drogue. C'est très très valorisant, surtout sur les revenus que ça peut générer. Et peu importe de comment, ou de la souffrance ou des droits humains, c'est quelque chose voilà, qui porte aussi, enfin, qui pose la question, on y reviendra tout à l'heure si on a le temps, évidemment, la question raciale ou la question du racisme. Est-ce que quand on est saharien d'une autre couleur de peau que les subsahariens, est-ce qu'on s'autorise plus de choses qu'avec d'autres personnes? Certainement, peut-être pas tous non plus, mais en tous les cas, ça fait partie d'une des explications. Et une vraie banalisation de la violence, enfin, voilà, ça va des prises d'otages aux attaques armées, aux poses de mines et aux sévices qui sont commis sur les migrants. Quand on parle avec des jeunes, j'ai fait plusieurs entretiens sur la situation dans une ville comme Gao, les jeunes sont fascinés effectivement par ces armes qui circulent absolument partout et qui sont un moyen de faire fortune et d'obtenir cette reconnaissance sociale. Donc, ce qui repose, me semble-t-il, depuis quelques années récentes, la figure de l'aventurier. Autant ces voyageurs migrants là, ce sont des aventuriers, autant les jeunes nomades sahariens sont aussi des aventuriers, et jusqu'où on va, ou alors des pirates. Alors, un point quand même sur la pression des politiques européennes aussi, parce que tout ça se fait là, dans un contexte un petit peu plus large. Alors, j'ai envie de dire la politique des Européens plutôt que des politiques européennes, parce que les politiques européennes, ça déshumanise ou ça désindividualise un petit peu les gens. Il y a véritablement des êtres humains derrière ça, qui sont nos élus, qui sont nos représentants. Alors, l'Europe, ou bien sûr, sur des coopérations bilatérales, mais... Bon, il y a des personnes dans la salle qui sont beaucoup plus calées que moi sur ces questions-là. Mais depuis 2015, là, on se déporte un petit peu vers le Niger voisin. Une loi a été votée par le gouvernement nigérien contre la traite des personnes, contre la traite des migrants, contre le voyage des migrants. Et donc ça... en échange de millions d'euros qui sont financés par l'Union européenne. Et tout ce carcan-là donc, construit des pressions supplémentaires, construit des contraintes supplémentaires. Une ville comme Agadez, donc évidemment, le gouvernement nigérien a mis tout en œuvre sur quelques mois. Peut-être que ça va se desserrer ensuite. Mais pour être le bon élève de l'Europe et pour recevoir ces millions d'euros, on fait une traque contre les chauffeurs, contre les passeurs et contre les coxeurs. Et donc ça, dans le cadre de partenariats avec des pays tiers, bon, j'ai pas trop le temps là, de rentrer là, dans le détail, mais il y a des promesses de 600 millions d'euros, en tous les cas, au titre de l'aide au développement, pour la participation à la répression et du trafic de migrants par les réseaux de passeurs. Donc c'est la, La loi dont je vous parlais, qui a voté le Niger, remonte à mai 2015, contre le trafic d'êtres humains, prévoyant des peines de prison de 5 à 10 ans pour les passeurs reconnus coupables de trafic. Derrière tout ça, il y a toute une coopération policière aussi, je passe rapidement, que vous connaissez, les agences Frontex et autres, qui viennent sur place et qui forment les policiers ou les gendarmes ou les militaires à des techniques de renseignement et d'arrestation sur place. Et voilà, donc sur l'année 2016, par exemple, on a vu réellement une baisse du passage, en tous les cas, officiel par la Paragadez. Et à la suite, donc, des mesures répressives de plus en plus sévères à l'encontre des passeurs. Et derrière tout ça, c'est toute une économie locale qui s'écroule aussi. Donc, ce sont les personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vivent véritablement. Et là, on pourrait faire de l'histoire sur la longue durée. Agadez est une ville de transit qui, depuis des siècles, vit de la traversée et du passage des voyageurs, que ce soit les voyageurs qui circulent vers le nord ou ceux qui reviennent du nord et passent par là. D'autant plus que dans les années 80-90, le Niger et le nord du Niger avaient développé une économie touristique qui faisait vivre du monde. Autant vous dire qu'il n'y a plus du tout de touristes actuellement et que donc les migrants étaient véritablement une ressource importante pour tout un monde et qui n'est pas négligeable du tout. Donc là, le résultat, c'est que les passeurs-chauffeurs empruntent alors d'autres voies détournées qui exposent les migrants à plus de dangers et le prix du passage augmente. Puisqu'il y a plus de dangers, le prix du passage augmente. Donc bon, ça, c'est une photographie qui est prise justement à partir de Agadez. Alors, un petit point sur les moyens de transport. Là, il y a aussi pas mal de travaux qui ont été faits. Vous voyez donc un gros camion qui transporte aussi des marchandises, soit du grain, soit du bois ou soit autre chose, qui prend à son bord une centaine de voyageurs. Alors, souvent là, des migrants, mais aussi, ça c'est un clin d'œil aussi pour Hendaye, mais aussi des chercheurs d'or, puisque dans le nord du Niger, comme dans le nord du Mali récemment, il y a des mines d'or un peu à ciel ouvert et c'est devenu une véritable ruée vers l'or. Donc ce camion-là part en direction de la Libye et amène des voyageurs migrants, aventuriers, qui partaient peut-être chercher du travail vers la Libye ou tenter leur chance vers l'Europe, mais qui détournent leur route pour faire fortune sur ces mines d'or. À côté, donc c'est un pick-up, les fameux pick-up Toyota, là, qui sont appelés au Niger là, des talibans aussi, parce qu'on risque un petit peu sa vie dessus. Là, on peut faire monter jusqu'à une vingtaine de personnes derrière. Et donc on voit, bon, voilà, ça c'est très connu aussi, tout l'arsenal, le kit, les bidons d'eau, etc. Et de manière individuelle, chacun doit sécuriser son pactage pour traverser le Sahara. Je vois que l'heure tourne, donc je me dépêche. Il y aurait plein de choses à dire à partir de cette photographie, mais je passe. Donc, juste sur Agadez, donc les quelques chiffres, les migrants assureraient apparemment les revenus de 7 familles sur 10 à Agadez. Et donc, on peut bien comprendre que par cette pression des politiques européennes, toute une économie s'effondre. Alors, ça a commencé par le Niger, mais puisqu'on était parti avec Samaké sur le Mali qui résistait aussi un petit peu aux injonctions des politiques européennes, notamment sur les reconduites, sur les réadmissions, comme ils disent, entre guillemets, est en train de s'intéresser un petit peu à cette question-là. Et le ministre des Affaires étrangères malien a fait une visite au Niger, à Niamey jusqu'à Agadez, il y a quelques mois à peine, pour justement s'enquérir un peu des politiques qui avaient été mises en place au Niger. Donc il ne serait pas étonnant là, de voir l'équivalent se constituer sur le Mali bientôt. Voilà, je suis passé trop vite, donc on reviendra sans doute sur les questions, sur la description un petit peu là, du contexte, mais en gros, donc c'est le contexte géopolitique qui va des conflits armés, du banditisme, de la difficulté du terrain jusqu'à... j'avais d'autres cartes aussi à vous montrer, jusqu'à le contexte géopolitique un petit peu plus large sur les politiques européennes. J'en viens maintenant donc à mon deuxième point sur cette réflexion autour de la mobilité, cette réflexion un peu théorique. Comment est-ce que ces réflexions théoriques peuvent nous permettre de penser et de comprendre tous ces va-et-vient et cette économie et du mouvement. Alors, donc ça remonte à quelques années. Dans mes lectures, là, j'étais tombé, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur deux auteurs qui m'avaient plutôt inspiré. Donc le premier, c'est Alain Bourdin. Là, je m'appuie sur un de ses articles paru en 2005 qui s'appelle « Les mobilités, le programme de la sociologie » dans les cahiers internationaux de sociologie. Qui, lui, définit la mobilité en disant, je cite, « La mobilité ne consiste pas à prendre une place dans un ordre, mais à s'approprier une ressource pour en faire usage. » Donc, c'est une approche en termes de ressources convoitées qui renvoie plus à une offre qu'à un ordre et permet de rendre compte donc, de phénomènes flexibles et aléatoires qui font le quotidien, de ce que j'ai pu observer, des pasteurs nomades du Sahara et du Sahel, mais également donc, des citadins, migrants, voyageurs, aventuriers. Donc les pasteurs nomades qui effectivement cherchent le pâturage et les points d'eau qui varient d'année en année, bon ça c'est connu, mais en tout cas c'est ce savoir-faire. Donc là on est bien éclairé là par cette définition là. Évidemment les fruits du commerce licite ou illicite qui se déplacent selon les circonstances, selon les arrivées, selon les fermetures de frontières ou non, etc. Mais ça peut aller jusque la captation de postes rémunérés. C'est pour ça que moi, je suis allé très loin avec cette définition de la mobilité comme accaparement de ressources. On va s'inscrire dans un recrutement, par exemple, les anciens rebelles qui avaient la possibilité d'être recrutés là, dans l'armée ou dans la gendarmerie, donc investissent ce lieu-là pour avoir un petit salaire. Donc participent aussi, selon moi, là, de logique de la mobilité, même s'ils deviennent enfermés là, dans une caserne ensuite. En tout cas, c'est se positionner sur une ressource pour en faire usage. Donc les ressources, poursuit Alain Bourdin, donc forment une nébuleuse qui se transforme en permanence beaucoup plus vite que le système des positions, en fonction des évolutions du contexte, mais aussi des intentions ou des choix de l'acteur, qui lui-même définit ses ressources pertinentes. Alors on est vraiment dans... Moi, je pense qu'il faut mobiliser aussi là, cette notion que j'aime beaucoup de Norbert Elias, dans cette notion là, de configuration. Et d'ailleurs... j'aimais bien aussi les métaphores utilisées par Norbert Elias pour parler de ces configurations. Bourdin a aussi recours à des métaphores d'autres. Ainsi, par exemple, il distingue les parcours sociaux de la mobilité de ceux qui s'élaborent dans la sédentarité, qui consiste à occuper des cases dont la valeur serait définie par des règles du jeu. Alors là, il prend deux jeux dans l'exemple, comme au Monopoly. On s'installe là les cases les plus chères et on construit là-dessus pour apporter de l'argent. Et un système qui s'organise plus dans la fluidité des mouvements et dans la mobilité serait le jeu d'échecs, où c'est la position du pion sur la case par rapport à la configuration du jeu qui fait l'importance du lieu et de cette position-là. Donc ça me paraît assez éclairant comme métaphore. Dès lors, la mobilité n'apparaît plus comme un déplacement fortement balisé et organisé entre les points fixes, mais comme une construction plus libre, plus individuelle et plus conjoncturelle. Elle pourrait ainsi être définie comme l'ensemble des techniques et des comportements qui permettent l'accès à des ressources sociales désirées. Plus celles-ci sont diverses et changeantes, plus l'acteur est demandeur de moyens pour les atteindre, plus la mobilité devient un phénomène central. Bon, voilà, je pense que ça parle à tout le monde ou à nous tous, en tous les cas, soit dans nos travaux ou même dans nos vies personnelles et individuelles. Je me dépêche. Alors l'autre auteur, donc, c'est Denis Retailler, qui est particulièrement éclairant pour cette toile de fond là, des rencontres et des échanges entre passeurs, convoyeurs et voyageurs du Sahara, qui lui propose une théorie de l'espace mobile, qui en plus émane directement là, de ses travaux là, de terrain là, qu'il a pu faire au Sahel, notamment au Niger, jusqu'à 1992. Donc, là, il n'a plus fait de terrain depuis, mais en tous les cas, il est bien imprégné par ces réalités-là. Alors, pour lui, les lieux deviennent mobiles. Alors ça, c'est très important. Ils sont définis d'abord et avant tout comme des sciences, comme des moments de rencontre et d'interaction entre des champs différents. Donc là, on est assez proche aussi de ce que proposait Bourdin. Il dit, enfin, cette phrase simple, « Le lieu, c'est là et quand il se produit quelque chose, du fait de l'entrée en interaction réciproque, d'éléments dispersés se trouvant réunis. » En fait, c'est le croisement. Et là, c'est absolument parlant. Voilà, c'est quand Samaké, sur son camion, se fait arrêter par des rebelles qui sont sous un arbre au milieu de nulle part, il se passe quelque chose là, physiquement et concrètement, mais qui disparaîtra ensuite, et avec les mêmes acteurs équivalents, se rejouera, la même scène pourra se rejouer dans une autre localité. Alors, il expose cette idée que ce sont les liens qui précèdent les lieux et non l'inverse. Pour lui, passage rapide sur les catégories, justement, sur la terminologie. Le site en question désigne justement le cadre matériel. Au milieu, là, de nulle part ou à côté, enfin, c'est jamais nulle part, mais dans telle ou telle vallée ou sous tel arbre. Ça, c'est le cadre matériel du lieu. Et la localité renvoie à la mémoire des lieux attachés au site. Donc, dans l'espace mobile, les lieux paraissent et peuvent disparaître ou se transformer, ou se déplacer, égaux à eux-mêmes, les mêmes se retrouvent ailleurs pour faire la même chose. Voilà, ça s'est dit avec ces mots, je vous l'ai dit avec les miens tout à l'heure. Cette plasticité du lieu est une forme de résistance à l'incertitude aussi. C'est-à-dire que, OK, on est sur la route, OK, sur Agadez, ça devient plus compliqué, on peut peut-être réorienter à partir du moment où on est sur Niamey, un voyage plus sur Gao, où c'est compliqué également parce qu'il y a beaucoup de violence, etc. Donc chaque acteur, en conscience des informations qu'il peut avoir, va faire un choix sur la route qu'il peut emprunter. Les notions de circonstances, d'incertitude, donc toutes ces notions-là que moi j'aime bien travailler en histoire là, notamment, de surgissement et d'effacement, quelles que soient les temporalités concédées, se retrouvent ainsi au fondement de ce qu'il appelle donc l'espace mobile. La centralité circule, comme il exprime lui-même. Voilà. Ainsi, les termes de mobilité et de mouvement pourraient décrire bien plus qu'un simple déplacement dans l'espace, mais, pour reprendre les termes de Sarto, un art de faire, une manière de vivre et d'être aux autres et au monde. Je termine très vite pour vous dire que, en ce sens, donc, ressources et espaces mobiles présentés par Bourdin et par Retailler permettent, selon moi, de penser la rencontre donc, que j'ai essayé de vous présenter au pas de course entre ces aventuriers migrants et les passeurs sahariens, rebelles et autres. Pour les Touaregs qui vivent au Sahara central, donc sur 5 pays, l'Algérie, la Libye, le Niger, le Mali et le Burkina, et sont pour certains d'entre eux spécialisés depuis des siècles dans les traversées et le transport au Sahara, même si le commerce et le transport concernent bien moins de monde que les activités pastorales et agricoles. Donc pour eux, en tous les cas, les aventuriers migrants représentent évidemment une ressource qu'il convient de s'approprier. Et dans ce cas précis, nul besoin d'aller aux marges de leur territoire, ni de s'aventurer hors de ses bases. La ressource vient s'offrir, on pourrait dire, quasiment à domicile. C'est pour ça qu'il y a cette idée de gens qui quittent en fait soit leur campement ou leur petit village, vont faire un kilomètre ou deux kilomètres à bord d'une mobylette même, avec leur arme à la main, et savent très bien, parce qu'ils sont connectés avec les fameux coxeurs, passeurs, chauffeurs, etc., que là, ils vont stopper l'avancée d'un véhicule et, par cette position de force, pouvoir gagner un pécule. Pour les aventuriers migrants, les habitants du Sahara, en l'occurrence donc ici là, les Touaregs, ça peut être plus à l'est des Toubous, qui se sont spécialisés aussi donc vers la Libye et puis vers le Tchad, sont les seuls à connaître les itinéraires et à maîtriser les techniques de transport nécessaires et l'acheminement d'un point à un autre au sein de cet espace particulièrement contraignant. Donc on est là dans des relations de pouvoir qui se créent dans toutes les directions. Les voyageurs migrants ont évidemment besoin de ces passeurs pour réaliser leur objectif. Quel que soit ce que ça peut leur en coûter, en tous les cas, ils se lancent là-dedans. Un parcours donc semé d'embûches, et particulièrement donc, quand la situation géopolitique se détériore considérablement. Le cas des rebelles et autres groupes armés qui sont arrêtés en un point donc, et stoppent la progression là, des migrants est un phénomène qui, donc, selon moi, participe aussi vraiment là, des logiques de la mobilité au sens de l'appropriation là, des ressources. Et je termine peut-être là-dessus en disant que moi, j'avais même poussé la proposition en travaillant sur la sédentarisation des passeurs nomades dans le nord du Mali, en montrant que cette sédentarisation participait aussi de logique, de logique sociale et politique de la mobilité, parce que, voilà, je le fais vraiment rapidement, dans les années 90 et plus encore dans les années 2000, il y avait une offre des aides internationales et des ONG qui favorisaient la sédentarisation et l'installation de villages. Donc un chef de famille, un chef de fraction, un chef de tribu pouvait constituer un village, donc implanter du banco, un petit centre de santé, un puits, etc., pour capter ce financement-là. Donc on est toujours, effectivement, on s'arrête, mais on est toujours vraiment, selon moi, dans ces logiques sociales de la mobilité. Et enfin, juste l'épilogue, ça c'est pour la discussion avec vous, et ce sera vraiment avec plaisir. Il me semble quand même que ces catégories donc, de nomades et de sédentaires qu'il faut déconstruire, bon, moi, j'ai fait ça pendant longtemps, mots extérieurs, étrangers, etc., qui sont une impasse et qui cloisonnent les êtres humains dans des situations. Mais il me semble quand même, à travers tout ce qu'on voit et ces moments de vie dans le mouvement, qu'il y a quand même un rapport au monde et un rapport au l'autre qui joue sur le rapport espace-temps, qui est intéressant d'interroger. Selon moi, les hommes, les femmes qui sont dans le mouvement surinvestissent le rapport au temps, le rapport à l'histoire, le rapport à l'avenir, le rapport à ce qui adviendra, un imaginaire qui peut être surdéveloppé. Bon, c'est particulièrement le cas au Sahara, où on laisse peu de place et où on se situe véritablement dans le temps, alors que ceux qui sont plus dans des logiques de la sédentarité, dans une logique de place, ça c'est peut-être le lien ou la transition avec Israël, en fait, sont véritablement sur un rapport à l'espace qui prédomine, alors qui se construit. Bon, on a toujours besoin de l'espace pour dire le temps et du temps pour dire l'espace. Mais voilà, enfin, sur cette première lancement de comment se fait-il que des nomades se mettent à contrôler le mouvement des autres, il y a ce rapport espace-temps qui convient d'être interrogé avec ces nouvelles dynamiques contemporaines. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci.
Merci Charles de ta présentation et de l'effort que tu as fait de présenter quelque chose d'extrêmement concret et empirique, et à la fois d'avoir recherché une inspiration théorique et de bien nous l'avoir mise en lien et expliquée. Et je pense que ce qu'il faut retirer principalement et qui va faire le lien, j'imagine, avec la présentation de Cédric, c'est cette figure complexe de l'acteur, justement, qui permet la mobilité, mais qui va aussi bloquer la mobilité. Là, tu as bien montré que ça peut être les mêmes acteurs qui permettent la mobilité par leur savoir-faire et qui vont la bloquer. De même, l'acteur qui est un entrepreneur légal lorsqu'il a son entreprise de transport, qui peut être à la fois le délinquant, tout simplement par l'adoption d'une loi comme la loi nigérienne que tu as citée, qui va faire passer dans l'illégalité des transporteurs de personnes. Et puis enfin, le rôle de l'espace contraignant qui renforce ce pouvoir de ces acteurs sur les mobilités, donc pour les permettre ou les empêcher. Alors, nous allons maintenant écouter Cédric Parizeau, dont l'intervention s'intitule « Un mur peut en cacher un autre, topologie de la séparation entre Israéliens et Palestiniens ».
Alors, merci beaucoup Delphine de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous de venir écouter. Alors au début, j'avais donné comme titre « Un mur peut en cacher un autre, topologie de la séparation entre Israéliens et Palestiniens ». Et puis finalement, j'irai plutôt vers spatialité visqueuse. Deux points, les espaces au pluriel du régime de permis israélien. Pourquoi ? Parce que ma présentation porte sur les chaînes de médiation formelles et informelles que le système de permis de circulation que les Israéliens ont imposé depuis les années 90 aux Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza a contribué à développer entre les deux populations. Mon objectif, c'est de comprendre deux choses. Tout d'abord, dans quelle spatialité, au pluriel, le régime de permis inscrit les Israéliens et les Palestiniens. Et la deuxième chose, c'est à partir de ces spatialités, et de la manière dont je peux comprendre comment elles s'articulent les unes avec les autres, c'est de comprendre quel type de processus de frontiérisation se met en œuvre dans cette région du monde. Alors mon approche s'inscrit dans une approche qui n'est pas très novatrice, puisque je reprends un peu, je m'appuie beaucoup sur Henri Lefebvre, qui a publié son ouvrage il y a déjà 43 ans maintenant. Ça ne nous rajeunit pas beaucoup. La production de l'espace, où l'enjeu n'est pas d'envisager l'espace à travers des formes, mais à travers la métaphore du flux. C'est-à-dire que l'espace n'est plus un objet, c'est plus un territoire, c'est plutôt des dynamiques et l'articulation de champs d'action de différents types d'acteurs. Alors là, j'entends acteurs au sens de la tour, c'est-à-dire pas des individus, mais des phénomènes d'individuation. C'est-à-dire, ça peut être des institutions, ça peut être des individus, des petits groupes, etc., etc. Donc, l'espace, si vous voulez, d'habitude, on a plutôt tendance à le représenter comme ça, surtout quand on travaille sur des chaînes de médiation, on essaie de voir comment les liens lient différents points sur une carte. Ben, moi, l'espace, je voudrais plutôt le regarder comme ça, c'est-à-dire comme des nuages de points et des arêtes, en fait, qui lient ces différents points les uns avec les autres. Et un flux, hein, quelque chose d'extrêmement dynamique. Alors, cette approche, elle me semble intéressante parce qu'elle permet d'envisager les effets du régime d'occupation israélien d'une manière très très différente par rapport à ce qui a été fait jusqu'alors. C'est-à-dire qu'il est possible d'envisager ces effets au-delà du seul confinement territorial des Palestiniens et au-delà de la mobilité physique et géographique des Palestiniens. Quand on parle de mobilité, on pense d'un mouvement d'un point à un autre sur un espace géographique. Or, la mobilité, du point de vue de Lefebvre, c'est la pratique spatiale, c'est donc des mouvements à l'intérieur d'un faisceau de relations et d'interactions. En adoptant la perspective que je propose, on peut appréhender comment ce régime de séparation affecte le positionnement des acteurs, non plus dans un espace géographique, mais les uns par rapport aux autres. Donc on ne parle plus de topographie, mais de topologie. C'est pour ça que je parlais de topologie de la séparation. Et puis on peut envisager aussi comment évolue la texture de leurs interactions, où on peut comparer la texture des interactions ou des formes de sociabilité des Israéliens par rapport à celles des Palestiniens. C'est ça qui m'intéresse. Et à travers ça, ce que je voudrais essayer de faire à la fin de cette présentation, c'est de repenser le type d'asymétrie que le régime de séparation a instauré entre Israéliens et Palestiniens. Alors avant d'en venir à mon terrain de recherche, je pense qu'il est peut-être indispensable en 5 minutes de préciser un certain nombre de concepts et notamment de souligner les limites que présentent les approches inscrites dans l'imaginaire territorial et national, surtout quand on traite d'Israël-Palestine. Alors la première limite, je dirais, des approches inscrites dans l'imaginaire national et territorial, c'est en fait qu'elles n'arrivent pas à prendre en compte la multiplicité des connexions que vous voyez sur ce schéma et qui persistent entre des Palestiniens des territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza avec des citoyens juifs israéliens ou palestiniens israéliens en Israël. Et pour cause, parce que ces approches inscrites dans un imaginaire national et territorial, elles tendent à réifier d'emblée l'idée d'une séparation entre ces deux populations. C'est comme si on avait, par défaut, une séparation entre Israéliens et Palestiniens. Tout d'abord parce qu'en posant l'appartenance nationale comme principe organisateur premier, voire même exclusif, ces approches, elles détournent l'attention d'autres types de liens qui ont aussi leur importance. Les liens de parenté, le partenariat économique, des liens d'amitié qui traversent ces populations. Le deuxième problème, c'est qu'en mobilisant l'espace, en modélisant l'espace à travers la métaphore du territoire, ces approches tombent dans le piège territorial que John Agnew nous évoquait en 1994 déjà, c'est-à-dire d'envisager une espèce d'isomorphie entre la nation, le territoire, la société, l'économie, etc., etc. Comme si tout était dans un cylindre avec cette espèce de rapport d'isomorphie entre tous ces étages. Et puis aussi de nous donner l'illusion, alors là c'est plus Agnew mais c'est deux anthropologues, Gupta et Ferguson, qui écrivaient un article en 1992, et qui disait qu'il fallait arrêter de s'intéresser à savoir comment on avait des cross-border relations, des relations transfrontalières ou transnationales, etc., et d'essayer de s'interroger non pas sur la manière dont ces relations traversent les sociétés ou passent d'une société à l'autre, mais comment on en arrive à s'imaginer qu'elles traversent, en fait ? Comment on arrive à s'imaginer que les sociétés sont des espèces d'entités séparées de manière extrêmement discrète les unes par rapport aux autres, sans aucun lien entre les unes et les autres ? Et le problème d'un tel cadre de pensée, c'est de poser, donc, comme je vous le disais d'emblée, une séparation entre les sociétés israéliennes et palestiniennes qui seraient séparées l'une de l'autre. On a deux nations, deux sociétés, deux territoires, etc. On vous parle d'imbrication, d'articulation et tout, mais elles sont toujours séparées l'une de l'autre. Et le cloisonnement de la recherche entre les recherches israéliennes et palestiniennes est à la fois une illustration et un facteur de cette tendance. Puisqu'à chaque fois qu'on continue à nous faire des recherches sur la société israélienne, on réimagine une nouvelle fois cette société israélienne séparée de la société palestinienne, et inversement. Donc on crée une prophétie qui s'autoréalise en permanence. Et même la sociologie critique, qui s'oppose justement, même les études postcoloniales qui proposent systématiquement de décoloniser la recherche sur Israël et Palestine, la recolonise en permanence en réinstituant ces cadres coloniaux, territoriaux, nationaux, qui construisent ces espaces israélo-palestiniens aujourd'hui. Autre problème, c'est, avec l'approche du territoire, c'est d'envisager, comme je vous le disais, la mobilité comme une mobilité, de réduire la mobilité à une mobilité géographique, c'est-à-dire le déplacement d'un point A à un point B, et d'oublier que pour se déplacer d'un point A ou un point B, là, les géographes nous le rappellent systématiquement, eh bien, il faut mobiliser des ressources, il faut nouer des contacts, il faut déployer une pratique spatiale qui dépasse le territoire et qui s'inscrit dans des espaces de relations sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Alors, afin d'aller au-delà de ces approches territoriales et nationales, donc je reprends les travaux, enfin l'approche de Lefebvre. Alors, je vous la rappelle brièvement. Lefebvre envisage donc l'espace comme une production qui résulte en fait de l'articulation des champs d'action d'acteurs inégaux. L'espace donc n'est plus envisagé comme un objet, comme un conteneur qui serait extérieur et préexistant à un sujet observant. Donc on sort d'une approche cartésienne, on sort de l'idée qu'il y a un sujet et un objet, pour envisager un flux. Un flux dans lequel s'insère ce sujet ou ces différents sujets ou ces différents acteurs, et dans lequel, finalement, on a des acteurs qui ont du pouvoir, d'autres qui en ont beaucoup moins, d'autres qui n'en ont pas du tout, mais en tout cas, tous ces acteurs contribuent à coproduire ce flux et la manière dont les sociétés se déploient. L'espace chez Lefebvre, c'est la manière dont les sociétés se déploient et non pas un espèce de support matériel qui préexisterait à ces sociétés ou à ces sujets. Alors cette production, elle peut être envisagée à travers trois types de dynamiques, les espaces conçus, les espaces perçus et les espaces vécus. Les espaces conçus renvoient aux représentations hégémoniques des planificateurs, des autorités et des chercheurs, ou en tout cas des acteurs qui ont le pouvoir. J'insiste sur les chercheurs, parce que nous, on produit cet espace en permanence aussi. En tout cas, on y contribue. Ces représentations, elles sont matérialisées et véhiculées par l'architecture, les institutions, les règles, la littérature, scientifique, non scientifique, etc. Et les catégories coloniales israéliennes, reprises par les Palestiniens, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un Israélien, un Palestinien, etc., elles font partie de ces représentations hégémoniques. Et elles sont entretenues, d'ailleurs, par un certain nombre d'acteurs qui sont parfois même dans des positions très antagonistes les uns par rapport aux autres. Ces espaces conçus, ces régimes d'énonciation, si vous préférez, ces régimes de visibilité aussi, ils sont articulés, bien que toujours disjoints. C'est un peu Lefebvre, c'est le dispositif de Foucault à trois étages. Au lieu d'en avoir deux, vous avez deux étages. Vous n'avez pas simplement le régime d'énonciation et le régime de visibilité. Vous avez ces trois étages. Donc, premièrement, espace conçu. Deuxièmement, l'espace perçu, qui renvoie à quoi ? Qui renvoie finalement à l'agencement des champs d'action de différents acteurs dans la société. Et que moi, j'envisage, en reprenant un peu, en m'inspirant pas mal de la sociologie de la traduction, de Latour, Calon et Akrisch, c'est-à-dire que j'envisage cette pratique spatiale, cet espace perçu, comme des circulations à travers des réseaux, ou alors des circulations qui structurent des réseaux sociotechniques qui sont composés d'humains, de non-humains. Alors, les non-humains, c'est les routes, les téléphones portables, Internet, etc., etc. Et cette pratique spatiale, elle contribue à l'émergence d'infrastructures qui organisent la mobilité des membres d'une société, qui organisent leur rapport à l'environnement, mais aussi leurs relations qu'ils entretiennent avec eux. Il y a, alors c'est Larkin et puis Mauss, je crois, qui expliquent même que cette infrastructure, elle organise notre rapport sensible à ce qu'on considère comme étant le réel. Je vous donne deux exemples. C'est parce qu'il y a des routes et des téléphones portables que les membres d'une famille peuvent maintenir des relations relativement soutenues et qu'une famille, la famille Tartampion, peut exister et se sentir solide, etc. Ce n'est pas simplement des relations humaines. Mais c'est aussi parce qu'il y a des transports en commun complètement défaillants entre Aix et Marseille qu'on a l'impression que ces deux villes sont très très loin l'une de l'autre. Presque Aix est presque plus loin que Paris, etc., etc. Voilà. Et c'est donc parce que ces transports en commun ne fonctionnent pas qu'on a l'impression qu'il y a une distance entre ces deux villes. Alors qu'elles sont à 30 km l'une de l'autre, on pourrait presque y aller en vélo. La troisième dynamique à laquelle on peut envisager, ne vous inquiétez pas, après je vais revenir, on va revenir très terre à terre avec une bonne anthropologie à la papa. Mais je pense que je vais m'appuyer sur ce cadre théorique, donc je voudrais qu'il soit clair pour tout le monde. La troisième dynamique à travers laquelle on peut envisager l'espace est celle des espaces vécus. Donc espace conçu, espace perçu et espace vécu. Alors là, on est à un niveau un peu plus individuel, plus existentiel. Autant la pratique spatiale, on est dans une perspective globale sur l'espace. Ici, on se place davantage au niveau du sujet, presque, hein, ou des acteurs, qui ne seraient pas des sujets, mais des phénomènes d'individuation. Et il s'agit ici, si vous voulez, à travers laquelle ces acteurs s'approprient dans leur trajectoire quotidienne les conditions qui prévalent dans la pratique spatiale, hein, dans ces espaces perçus, donc dans ces infrastructures. Alors c'est la position personnelle, les relations de pouvoir qu'on entretient avec son environnement, les ressources qui sont accessibles, etc., etc., le nombre de téléphones portables qu'on a, mais aussi dans les représentations de l'espace, c'est-à-dire dans les espaces conçus. Parce que finalement, ces régimes d'énonciation préexistent la plupart du temps au sujet, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les récupère et qu'on essaye de faire sens du monde qui nous entoure à travers ces récits, ces régimes d'énonciation, et puis aussi à travers certains régimes de visibilité, hein, que sont la cartographie, les modèles visuels que fournit le territoire. Le territoire, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement un concept. Le territoire, c'est, si on reprend Lefebvre, c'est une espèce de projection géométrique de l'espace où on réduit l'espace à une forme d'étendue. D'ailleurs, quand on parle du territoire national, c'est un espace qui est homogène, isotope, hein, dans lequel on peut appliquer une métrique. Hein, tous les points, finalement, peuvent être comparés, la distance entre chaque point peut être comparée l'une avec l'autre. Et puis, dans ce territoire, on découpe des formes. On est dans un modèle visuel très, très plat, il y a deux dimensions, trois même, mais on reste dans une forme, dans une surface, hein, qu'on peut travailler et qui est un objet extérieur au sujet. Dans le flux, avec Lefebvre, on change déjà de modèle de visibilité parce que le rapport sujet-objet n'est plus du tout construit de la même manière. Voilà pour les régimes de visibilité, les régimes d'énonciation. Et donc, en fait, c'est donc dans ces infrastructures, dans ces régimes de visibilité et d'énonciation qu'on on pioche en fonction des compétences qu'on a, du vécu qu'on a, etc., et qu'on refait des combinaisons, un peu comme De Certeau le disait, et qu'on arrange, qu'on construit notre propre appareillage pour construire notre rapport à l'espace. Et ces trajectoires, ces combinaisons quotidiennes, eh bien, elles contribuent à leur tour, au fur et à mesure, à différentes échelles, à coproduire cet espace, donc à changer l'articulation des champs d'action entre les acteurs, donc les infrastructures, à modifier un peu les régimes d'énonciation, etc., etc., etc. Donc ce sont trois dynamiques qui s'articulent les unes avec les autres et en relation, qui s'autodéterminent, mais qui sont aussi elles, déterminées par des logiques un peu différentes les unes des autres. Alors, dans le temps qui me reste, je vais essayer de vous montrer comment s'articulent ces trois dynamiques dans la mise en œuvre du régime de séparation et surtout dans la mise en œuvre du régime de permis qu'ont imposé les Israéliens aux Palestiniens depuis les années 90. Alors, comment je vais faire? Tout d'abord, je vais essayer de souligner les divergences ou les décalages qui existent entre ces espaces conçus, c'est-à-dire la manière dont le régime de permis réorganise les limites territoriales des espaces israélo-palestiniens. Donc comment il réorganise les territoires, hein, et ce n'est pas simplement un objet, le territoire, c'est une projection dans l'espace. Et de l'autre côté, donc entre ces territoires et puis, d'un autre côté, la pratique spatiale, qui sont en fait l'ensemble des réseaux de relations et de connexions sur lesquels ce régime de permis doit s'appuyer pour fonctionner. Donc c'est les relations entre les institutions israéliennes, palestiniennes, étrangères, c'est les relations entre les passeurs, etc., etc., les avocats, les ONG et compagnie. Et puis ensuite, en me reposant davantage sur les recherches ethnographiques que j'ai faites et sur les chaînes de médiation formelles et informelles qui se développe dans le cadre de la mise en œuvre de ce régime de permis, je vais essayer de vous montrer comment les trajectoires, donc ces espaces vécus par les acteurs sur le terrain, viennent transformer ou actualiser, si vous voulez, cette pratique spatiale et ces espaces conçus. Hein, comment ils les réorganisent et ils contribuent soit à les modifier, les transformer, introduire des lignes de fuite, ou alors au contraire à les renforcer et à donner l'illusion finalement qu'on a bien une séparation très claire entre Israéliens et Palestiniens. Alors, tout d'abord, comment le régime de permis a réorganisé les limites des espaces israélo-palestiniens ? Début des années 90, l'émergence du régime de permis de circulation n'a pas seulement mis fin à la relative liberté de mouvement que les Palestiniens avaient eue depuis 1967 dans l'espace israélo-palestinien, mais elle a contribué à remplacer un système de contrôle par un autre. En fait, ce qui se passe, c'est que de 67 à 87, on a un système colonial avec une intégration de la population locale à l'économie, à un ensemble de choses, mais une population qui est maintenue à l'extérieur de la communauté politique, hein, et tout ceci pour assurer une certaine prospérité et éviter toute rébellion. Et puis à partir de 87 et les années 90, on passe au régime de séparation. Alors les premières restrictions de mouvement, elles apparaissent pendant la première intifada entre 87 et 93, où l'armée, avec d'autres mesures sécuritaires, comme des couvre-feux, des bouclages, va essayer de réprimer le mouvement palestinien. Alors ces restrictions de mouvement, elles vont généraliser, elles vont empêcher finalement les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza d'entrer, ou en tout cas filtrer ou réguler l'entrée des Palestiniens en Israël. Elles se généralisent et elles vont même inclure Jérusalem-Est, qui fait partie des territoires occupés, mais qui va être exclu des zones de circulation des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Alors ces régulations, elles recouvrent des enjeux économiques et politiques, hein, pas simplement sécuritaires, puisque limiter le nombre d'entrées des Palestiniens en Israël à l'époque, ça veut dire repenser complètement l'articulation du marché du travail palestinien-israélien. Parce qu'à l'époque, vous avez plus de 40% de la main-d'œuvre du bâtiment israélienne qui est palestinienne, plus de 30% dans l'agriculture et dans le tourisme, on est à 15-20%. C'est 7% de la main-d'œuvre israélienne totale, la main-d'œuvre palestinienne à l'époque. Mais c'est aussi repenser le mode de contrôle des Palestiniens. Comme je vous le disais tout à l'heure, intégrer la population à l'économie israélienne, c'est une manière d'assurer un certain niveau de prospérité, hein, de rendre les Palestiniens dépendants des Israéliens, et donc de maintenir cette population sous tutelle et d'éviter qu'elle se rebelle. Donc, si vous voulez, le régime de permis, il a contribué à réorganiser l'articulation économique et politique des espaces israélo-palestiniens et à permettre à mettre en œuvre le projet de séparation, qui est un projet défendu à l'époque par la gauche israélienne et notamment par Yitzhak Rabin. Alors, ce régime de permis va contribuer aussi largement à l'émergence de nouvelles frontières, enfin, des frontières qui n'ont pas de nom, hein, puisqu'on parle de limites, mais pas de frontières entre Israéliens et Palestiniens. Dans les premières années, ce régime va se mettre en place, donc dans les années 90, en parallèle au retrait de l'armée israélienne des zones autonomes et semi-autonomes, de la création des zones semi-autonomes palestiniennes, vous voyez en rose, et dans cette espèce de rose très pâle, en fait, en Cisjordanie, donc rose pâle reste sous administration israélienne, 60% du territoire de la Cisjordanie, 30% de la bande de Gaza, et le reste est... Dans le reste, les Israéliens délèguent l'administration de la population civile et d'une partie de la sécurité à l'autorité palestinienne. Alors, au départ, les permis ne sont demandés que quand les Palestiniens traversent la ligne verte, qui est en noir ici, hein, qui est la frontière qui sépare la Cisjordanie et Israël. Et puis, progressivement, dans les années 90, les Palestiniens vont devoir obtenir des permis pour entrer dans les colonies israéliennes, qui sont simplement dont les zones de juridiction ne s'étendent pas sur l'ensemble de la zone sous juridiction israélienne. Donc on a, en plus de ça, d'autres frontières qu'on ne voit pas très bien. Et puis progressivement, donc après l'échec des négociations de Camp David en 2000, et puis le déclenchement du second soulèvement palestinien, les gouvernements israéliens et l'armée vont décider de réorganiser leur système de contrôle dans les territoires occupés. Alors d'un côté, pour montrer à l'opinion publique que les gouvernements et l'armée prennent des mesures tangibles, vous avez trois types de mesures. Tout d'abord, alors une réduction drastique du nombre de permis octroyés aux Palestiniens, hein, qui chute littéralement. Vous n'avez plus que quelques milliers de Palestiniens qui sont autorisés à rentrer légalement. Vous avez aussi la construction du mur de séparation à partir de 2002, qui est une véritable théâtralisation de la séparation. Et puis vous avez le retrait de la bande de Gaza en 2005. D'un autre côté, afin de réprimer la rébellion, l'armée réinvestit les villes et les villages palestiniens, dont elle s'était retirée dans les années 90, et elle déploie un ensemble de dispositifs de contrôle. Alors vous avez des checkpoints, des blocs de béton, des tours de guet, des tranchées, des barrières à l'entrée des villes, des barrières routières, qui vont permettre de quadriller littéralement la Cisjordanie et de renforcer l'enclavement des Palestiniens à l'intérieur des enclaves palestiniennes. Alors l'objectif, vous avez quatre objectifs, hein, sécuriser les déplacements des colons israéliens pour pas qu'ils se fassent attaquer par les Palestiniens, réduire les capacités d'action des groupes armés palestiniens, renforcer la capacité de surveillance israélienne autour et à l'intérieur des enclaves. Et évidemment, toutes ces mesures vont renforcer le confinement et la fragmentation des Palestiniens pour atteindre un niveau qui n'a jamais été connu par le passé. Alors, ce qui se passe, c'est que les circulations entre Gaza et la Cisjordanie sont complètement interrompues à partir de 2000. Les Israéliens ne donnent plus de permis aux Palestiniens pour aller de Cisjordanie à Gaza. Et puis à partir de 2005, les Gazaouis ne peuvent plus entrer en Israël. Il n'y a plus de permis, à part pour quelques privilégiés. En Cisjordanie, vous avez par contre de nouvelles limitations de mouvement et des nouveaux permis qui sont créés pour se déplacer entre les enclaves palestiniennes avec une voiture. Il faut un permis. Pour avoir accès à certaines routes, il faut un permis. Pour rentrer dans certaines zones, comme la zone qui est prise entre le mur et l'ancienne ligne verte, c'est-à-dire l'ancienne ligne qui séparait Israël de la Cisjordanie, qui est une zone assez importante, là aussi, il vous faut un permis. Pour rentrer dans la vallée du Jourdain, il vous faut un permis, etc., etc. Donc, en fait, les limites que vous voyez sur cette carte ne rendent pas compte de la moitié des limites qui se déploient, que mettent en œuvre ce système de permis. Alors, vous avez de nombreuses recherches qui ont essayé de modéliser les configurations territoriales extrêmement complexes que ces mesures ont fait émerger. Alessandro Petti, qui est un architecte italien, parle de la coexistence d'un archipel israélien ultra connecté avec des routes de contournement qui évitent les zones palestiniennes. Et puis, vous avez un archipel extrêmement d'enclaves palestiniennes, extrêmement fragmenté. Certains chercheurs qui comparent la Cisjordanie à Managua, par exemple. Hein, vous avez des routes et des hélicoptères qui permettent de lier les banlieues les plus riches, et par contre, les bidonvilles sont complètement fragmentées les uns des autres. D'autres chercheurs, comme Adi Ophir et Ariella Azoulay, conceptualisent ce système comme une inclusion exclusive. C'est-à-dire que, au-delà de l'exclusion des Palestiniens, le régime d'occupation israélien permet aux Israéliens de conserver des puissants leviers pour affecter le fonctionnement de l'économie, de la société et de l'arène politique palestinienne. Et d'ailleurs, si vous lisez les rapports, un rapport assez récent de 2011, fait par un des membres de la Banque d'Israël, vous voyez que le régime de permis est considéré comme un levier politique, sécuritaire, extrêmement précieux aux mains des Israéliens. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens disent, mais il y a très peu d'ouvriers palestiniens, finalement, qui passent en Israël. Alors, les chiffres de la banque, mais personne n'est d'accord sur les chiffres. Et même ce rapport disait, on est incapable d'avoir de véritables chiffres qui tiennent la route. Il y aurait eu 60 000 personnes, justement, en 2011, qui passaient, certaines avec des permis, d'autres sans permis. N'empêche que, du point de vue des dirigeants israéliens, c'est un système de régulation stratégique. Ça permet de mettre la pression économique, politique, etc., sur les Palestiniens, bien plus que d'autres choses, et de manière extrêmement discrète, en plus. Alors, donc, un dispositif d'exclusion inclusive, et puis finalement, régime de permis, il a introduit aussi, pour beaucoup de chercheurs, un niveau d'incertitude énorme dans la vie des Palestiniens, puisque... Alors, vous avez des dispositifs de contrôle dont je vous en ai parlé. Vous en avez à peu près 500, hein, ces checkpoints, tas de terre, blocs de béton, etc., barrières, en Cisjordanie, sur un tout petit territoire. C'est 150 km de long, de nord au sud, 50 d'est en ouest, à peu près. Mais ils bougent tout le temps. Donc, il est extrêmement difficile de planifier une trajectoire. Et c'est fait pour, d'ailleurs. C'est pour, l'armée le dit, pour éviter que des terroristes puissent se déplacer de manière extrêmement rapide pour attaquer des cibles israéliennes. Eh bien, dans le régime de permis, même récit, quand il y a une avocate qui s'appelle Yael Berda, qui a fait un travail extraordinaire sur le régime de permis israélien, et qui dit qu'à chaque fois qu'elle demande comment ça fonctionne, on lui dit « mais on ne veut surtout pas le dire, parce que si on le dit, les gens vont comprendre comment contourner le fonctionnement de ce système, et ils vont pouvoir aller poser des bombes à Tel Aviv, etc., en utilisant des permis de passage ». Donc, si vous voulez, le système de permis, comme l'ont montré tous ces chercheurs, c'est qu'il réduit l'étendue de la circulation des Palestiniens, il bouleverse leur trajectoire, et il bouleverse aussi leur rapport au temps. Toutefois, comme je l'ai dit plus tôt, de mon point de vue, le problème de ces travaux, c'est qu'ils envisagent surtout l'espace à travers le territoire, ou un peu comme et parfois comme un paysage. Donc on est toujours dans une projection cartésienne, vous avez le sujet, l'objet, et un espace qui préexiste au sujet. Alors je voudrais maintenant poursuivre l'analyse des effets du régime de permis sur la pratique spatiale des Palestiniens, mais la pratique spatiale non pas entendue comme une mobilité géographique, mais la pratique spatiale entendue comme, au sens où Henri Lefebvre la définit, c'est-à-dire l'articulation des champs d'action des différents acteurs au sein d'une société, c'est-à-dire la manière dont se déploie une société. Alors évidemment, je vais zoomer sur le régime de permis, je ne vais pas parler de toute la société israélienne et palestinienne, mais si on zoome sur le fonctionnement du régime de permis, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà un espace beaucoup moins séparé que ce qu'on nous dit dans ces représentations hégémoniques de l'espace. D'un point de vue institutionnel et individuel, le régime de permis se repose et dépend fortement des réseaux socio-techniques, formels et informels, qui lient Israéliens, Palestiniens et même un certain nombre de consulats étrangers, la Croix-Rouge, des ONG, etc. Alors, en me reposant sur le concept d'infrastructure que j'ai mentionné plus tôt, alors quand on parle d'infrastructure, ce n'est pas une approche institutionnelle, au contraire, c'est justement comment vous avez des articulations entre les institutions et puis tous ces acteurs informels. L'infrastructure, c'est un peu comme l'agencement de Deleuze, c'est-à-dire c'est d'éléments extrêmement hétérogènes qui s'articulent avec des acteurs qui sont antagonistes, des intérêts antagonistes, et qui finalement créent une forme de phénomène d'individuation. C'est-à-dire quelque chose qui s'impose et qui crée du sens. C'est un peu comme un Léviathan, d'une certaine manière. Alors, en me reposant donc sur ce concept d'infrastructure, je vais essayer de voir comment le régime de permis organise des formes de médiation et de circulation entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi comment il contribue à structurer la mobilité géographique des Palestiniens. Alors, ce système de permis, ce n'est pas une institution, contrairement à ce qu'on dit, c'est un système qui repose sur des substrats extrêmement hétérogènes. Ce que dit justement cette juriste Yael Berda, c'est que le système de permis résulte d'un processus de décision ad hoc et de décret qui ont contribué au fur et à mesure des années à articuler des institutions israéliennes extrêmement diverses. Alors ça va du ministère de l'Intérieur, de la Défense, de l'Agriculture, de l'Économie, du Tourisme, aux différentes branches de l'armée israélienne, l'administration civile, le bureau de coordination avec les Palestiniens, et puis vous avez les services de renseignement israéliens, qui sont jamais nommés dans le schéma organisationnel, mais qui pourtant dirigent tout. Ils sont jamais nommés dans les rapports non plus. Et puis vous avez aussi la police israélienne, etc., etc. Vous avez, à côté de ça, c'est un fonctionnement d'autant plus compliqué que vous avez les Israéliens, mais vous avez aussi les Palestiniens, puisque dans les années 90, pour que ce régime de permis fonctionne et que les demandes des Palestiniens remontent aux administrations israéliennes, eh bien, il faut des organisations palestiniennes pour relayer ces demandes de permis. Donc vous avez aussi des bureaux de coordination palestiniens. Et puis vous avez la Croix-Rouge internationale qui va relayer, alors je ne sais plus, pour 2011, je crois, c'était 192 000 demandes de permis. C'est-à-dire trois fois plus que le nombre de permis demandés pour les ouvriers qui passent de Cisjordanie en Israël. Les consulats, consulats de France, consulats des États-Unis, etc., chaque fois qu'un Palestinien doit venir à Jérusalem, il lui faut un permis. Donc vous avez des milliers et des milliers de permis qui sont demandés chaque année, non pas majoritairement par des organisations israéliennes ou palestiniennes, mais par des organisations étrangères. Alors l'implication de ces acteurs extérieurs, elle est loin d'être marginale, en nombre, je vous l'ai démontré, mais sur le plan administratif, sur le plan pratique, tous ces acteurs, à force de régularité, organisent des procédures,
rationalise des pratiques, etc. Et donc installe, intègre à l'intérieur de ce régime de permis, de cette infrastructure, de nouvelles procédures. Hein ? Vous avez un schéma qui se complique sans arrêt. Un niveau plus individuel maintenant. Laissons les institutions de côté. Les procédures de permis, elles donnent un rôle central au réseau interpersonnel dans la mesure où elles nécessitent systématiquement l'intervention d'un garant israélien. C'est un peu comme quand on demande un visa pour aller en France. Dans certains pays, il faut quelqu'un qui dise « voilà, cette personne va bien vivre chez moi », etc., etc. Donc un Palestinien désireux d'obtenir un permis doit contacter un employeur israélien qui va se tourner vers les autorités compétentes. Alors s'il ne l'a jamais fait, lui aussi, il va devoir suivre une procédure assez complexe. Donc il va tout d'abord dans le bâtiment, par exemple, parce que ça ne marche pas partout pareil. Dans l'agriculture, ce n'est pas la même procédure. Dans le tourisme, ce n'est pas la même procédure, etc. Donc dans le bâtiment, il faut se tourner vers la division des paiements du ministère de l'Économie, qui va déterminer si l'employeur est éligible, ou pas éligible. Si oui, la division des paiements va demander des informations sur l'ouvrier palestinien. Donc c'est le numéro de carte d'identité, l'adresse, le téléphone. La division des paiements envoie cette demande au service d'emploi de l'administration civile, la branche de l'armée israélienne qui s'occupe des Palestiniens dans les territoires occupés, qui va se rapprocher des services de renseignement pour voir si la personne n'est pas recherchée ou blacklistée pour des questions sécuritaires. Et si tout va bien, ce Palestinien va obtenir un permis. Donc si on reprend le schéma, mais alors ultra simplifié, vous avez un ouvrier palestinien qui contacte un employeur israélien, qui va contacter la division des paiements, qui va contacter les services de renseignement israéliens. Si tout marche bien, on reçoit un permis. Alors les choses se complexifient parce que les Israéliens ont déjà organisé des moyens de contourner un peu tout ça. Si vous connaissez un membre du Parlement israélien, en général, ça va beaucoup plus vite. Si vous connaissez un fonctionnaire israélien bien placé, ça peut aller aussi beaucoup plus vite. Tout ça est légal. Tout ça est formel, mais vous avez déjà des canaux qui viennent complexifier eux aussi ce schéma. Alors ces chaînes de médiation, elles nous amènent à poser la question suivante, c'est est-ce que c'est le profil des gens qui comptent ou est-ce que c'est le réseau? Si vous regardez toutes les recherches qui sont faites sur le régime de permis, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont un peu obsédées par l'imaginaire national et les catégories nationales. Les recherches postcoloniales en première ligne, l'objectif, c'est de dénoncer un régime inique où vous avez des ethnoclasses, c'est-à-dire que en fonction de l'appartenance ethnique ou religieuse, on n'a pas les mêmes droits, les mêmes statuts, c'est vrai. Mais à force de vouloir tout le temps démontrer ça, on réifie ces catégories et on en fait le principe organisateur premier. Or, ce qu'on voit clairement ici, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est palestinien, il faut demander un permis, mais ça ne suffit pas. Après, est-ce qu'on va l'obtenir ou pas l'obtenir? Ça va dépendre du réseau dans lequel on s'intègre. C'est l'identité du sponsor et le secteur d'activité qui va déterminer la procédure. Donc déjà, à un niveau formel, c'est même plus le profil, c'est la personnalité et l'identité du garant. Dans l'agriculture, dans le bâtiment, c'est pas la même procédure. Si on va cueillir des pommes et si on va cueillir des pêches, l'âge légal pour cueillir des pêches et pour cueillir des pommes n'est pas tout à fait le même. Les sponsors n'ont pas les mêmes motivations, pas la même efficacité, pas la même capacité d'influencer les décisions de l'administration. Donc, pareil, c'est pas la même chose. Le permis n'est pas obtenu de manière aussi rapide et avec la même facilité. L'obtention d'un permis, ça dépend donc de son réseau, mais ça dépend aussi des réseaux que vous imputent les services de renseignement israéliens. C'est-à-dire que vous êtes, c'est Stéphanie Latabdala qui parle de toile carcérale, mais on peut parler de toile virtuelle, hein, que construisent les services de renseignement et qui considèrent que si vous avez eu quelqu'un qui a été tué par l'armée israélienne dans votre famille, vous êtes quelqu'un de dangereux. Donc en fonction des connexions que eux vont faire et qui vous échappent complètement, vous n'avez pas tout à fait le même accès au permis. Donc vous avez votre réseau de relations, vous avez le réseau de relations que construisent les services de renseignement, hein, et puis vous avez bien entendu là où vous êtes, etc., etc. Vous avez multiples réseaux de relations qui vont s'articuler les uns avec les autres et qui vont, eux, déterminer si vous obtenez un permis ou pas. Enfin, quelqu'un, comme je vous disais, qui ne répond pas forcément aux critères d'éligibilité, peut contourner ce système avec un fonctionnaire israélien bien placé, ou alors si on travaille pour les services de renseignement israéliens, là, effectivement, tout devient beaucoup plus facile. Alors, la manière dont ces réseaux régulent ou ces infrastructures, si vous voulez, elles régulent l'accès des Palestiniens à une mobilité géographique, est d'autant plus complexe à saisir. Hein. On ne peut pas vraiment faire de photos parce que ça change tout le temps. C'est une topologie extrêmement dynamique. Et je vais essayer d'illustrer pourquoi. Alors, c'est lié à l'évolution des conditions politiques, économiques et sociales qui font évoluer sans arrêt les relations entre les institutions, mais c'est lié aussi aux multiples réappropriations que font les acteurs sur le terrain. Donc ces trajectoires dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on descend un peu aux espaces vécus, c'est-à-dire la manière dont les acteurs actualisent finalement l'environnement dans lequel ils vivent en faisant leur propre combinaison. Alors tout d'abord, ce qu'on note, quand je vous disais que c'est une topologie dynamique, c'est qu'on note tout d'abord la multiplication des médiateurs juridiques au cours des 20 dernières années. Le tournant des années 90-2000 a été marqué par l'investissement croissant des ONG et des avocats au sein de l'infrastructure du régime de permis. C'est dû à un ensemble de facteurs. C'est tout d'abord le processus de judiciarisation du politique dont vous avez tous entendu parler, qui affecte Israël-Palestine autant que d'autres pays dans le monde, où la mise en œuvre des mécanismes de contrôle israélien et les problèmes de droits de l'homme que ça soulève a stimulé des mobilisations de nombreuses ONG et de nombreux avocats. Maintenant, les problèmes sont plus politiques, ils sont judiciaires et donc juridiques, et donc on les traite de manière juridique. Alors, ces médiateurs, ils ont joué un rôle fondamental. Tout d'abord, ils ont permis de créer un corpus de connaissances sur le fonctionnement de ce régime, hein, que les autorités s'efforcent sur lesquelles elles s'efforcent de maintenir une opacité extrême. Ensuite, ils jouent le rôle d'intermédiaire pour aider les Palestiniens, faciliter l'obtention. Donc là encore, on a encore des intermédiaires hein, qui apparaissent. Et les avocats ont joué un rôle de plus en plus important, que le nombre de Palestiniens qui a été blacklisté a explosé pendant la deuxième intifada. Je vous donne des chiffres. Dans les années 90, vous avez quelques milliers de personnes qui sont blacklistées, quelques milliers de Palestiniens. Entre 2000 et 2005, vous avez 260 000 personnes qui vont être blacklistées, un quart de million de Palestiniens qui étaient blacklistés. Et donc, à chaque fois que vous êtes blacklisté, il faut aller voir un avocat, essayer de faire un recours à la Cour suprême, etc., etc., pour espérer peut-être obtenir la possibilité de sortir de cette liste noire. Alors, les réseaux qui lient les Palestiniens à leurs employeurs et aux institutions israéliennes, donc, si vous voulez, d'une certaine manière, se démultiplient. Vous êtes de plus en plus d'intermédiaires, mais vous avez aussi une extension des chaînes de médiation. Pourquoi il y a une extension des chaînes de médiation? C'est que depuis l'éclatement de la seconde intifada, le nombre d'intermédiaires assurant le lien entre les travailleurs palestiniens et leurs employeurs israéliens a considérablement augmenté. Avant, dans les années 90, les employeurs israéliens, ils allaient chercher leurs employés directement dans les territoires occupés. À partir des années 90, ils y vont de moins en moins. Et puis, dans les années 2000, ils y vont presque plus. D'abord, parce qu'ils sont interdits par l'armée israélienne, qui tient les villes et les villages palestiniens. Et puis ensuite, il y a de plus en plus d'attaques contre des Israéliens. Donc, du coup, les entrepreneurs ont vraiment peur d'y aller. Donc, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez tout simplement un médiateur palestinien, mais alors vous en avez plein. Donc, vous avez des gens. Et puis, alors, comme les permis sont de plus en plus rares, vous avez une démultiplication du nombre d'intermédiaires, parce que on vend des numéros de téléphone ou un petit contact avec quelqu'un ou avec quelqu'un qui connaît peut-être quelqu'un qui aura un numéro de téléphone. Donc vous avez une démultiplication de ces réseaux de médiation. Alors les médiateurs légaux et les médiateurs, enfin légaux, pas dans le sens vous avez des légaux et illégaux, hein, les médiateurs juridiques par contre, pardon, et les médiateurs informels sont donc venus accroître le nombre de connexions au sein des réseaux de recrutement. Mais ils ont aussi augmenté la distance topologique entre les demandeurs de permis. La distance topologique, c'est... Donc les gens n'ont pas bougé hein, dans l'espace. Tel Aviv, Ramallah sont toujours au même nombre de kilomètres. En revanche, vous avez de plus en plus de connexions entre Tel Aviv, Ramallah, mais le nombre de connexions, le chemin dans ces connexions est de plus en plus long. Donc si vous sortez de cette approche territoriale qui pense la séparation en termes de distance géographique et de métrique, dans un espace... isotope, hein, dans cette espèce d'étendue, et que vous pensez ça en termes de schéma, comme je vous le montrais tout à l'heure, vous avez une démultiplication des connexions, avec la séparation. Donc les gens sont de plus en plus connectés, mais de plus en plus loin topologiquement. En outre, ils ont introduit, ces acteurs, leurs propres pratiques et formes de médiation. C'est comme les organisations internationales ou les organisations palestiniennes qui travaillent, d'une certaine manière, avec les organisations israéliennes dans cette infrastructure de permis. Chacun amène sa manière de faire. Alors c'est particulièrement flagrant, et sa manière de faire, chaque fois qu'on met sa manière de faire, vous avez progressivement une forme de congestion de ces réseaux de médiation. Donc là, je sors de la topologie pour essayer d'envisager la dynamique des flux. Alors c'est particulièrement flagrant si on se penche sur le trafic de vrais faux permis. Je peux vous dire que le parrainage, ce système de parrainage ouvre des opportunités extraordinaires pour une série d'acteurs qui désirent accroître leur pouvoir ou leur profit. Hein, et vous avez des entrepreneurs israéliens qui ont fait fortune avec ce système de parrainage. Qu'est-ce qu'on fait ? Si j'ai une entreprise et au lieu d'établir une demande formelle de permis auprès du bureau des paiements israélien pour 100 ouvriers, je vais en demander 200. Alors d'abord, ça, tout le monde le fait. Parce que vous ne savez jamais s'il n'y a pas deux ou trois ouvriers qui vont se faire refuser leur permis. Donc vous majorez toujours. Puis après, qu'est-ce que vous faites avec les autres permis ? Alors, soit vous êtes sympa et vous les donnez aux gens, puis vous dites, faites donc ce que vous voulez avec, et puis on garde des relations cordiales. Mais vous avez quand même pas mal de gens qui vont dire, moi, je vous les donne, mais on va multiplier le prix par deux. Il faut que je paye la division des paiements pour votre retraite, pour les charges sociales, patronales, etc. Mais vous allez me donner aussi une petite commission, parce que sinon, vous ne travaillez pas vraiment pour moi, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En 2010, un permis de 6 mois, ça valait 1200 shekels par mois, c'est-à-dire 240 euros. Et il pouvait être vendu jusqu'à 360 euros, si on majorait un peu le prix. Donc, la vente de 100 permis donnait un bénéfice de 12 000 euros par mois. Vous multipliez ça par 10 mois, ça fait 120 000 euros. C'est pas mal, vous achetez un beau studio à Aix-en-Provence. Alors, les travailleurs palestiniens qui justement récoltent ce type de documents, alors qu'est-ce qui se passe ? Ils passent légalement, donc ils rentrent dans les statistiques légales, mais ils travaillent illégalement en Israël. Alors, inutile de dire qu'un tel commerce ne peut pas se produire sans une chaîne complexe avec des intermédiaires très efficaces. Pourquoi ? Les permis ne sont délivrés que par les autorités israéliennes. Ça passe, il faut faire circuler l'état civil exact de l'ouvrier palestinien pour qui on demande un permis, ses différents documents d'identification, donc il faut des vrais documents, et il faut que le candidat passe un check auprès des services de renseignement israéliens. Et inutile de dire que si vous voulez faire de l'argent, il ne faut pas leur envoyer des types qui sont dans des partis ou liés à des partis. Donc il faut faire vous-même le check sur ces ouvriers palestiniens pour être sûr qu'ils vont rapporter de l'argent, en fait. Par conséquent, un entrepreneur israélien qui est impliqué dans un tel commerce, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit compter du côté palestinien sur un ensemble d'acteurs. Hein ? Et puis beaucoup, pour faire des enquêtes, pour savoir si tous ces gens n'ont pas vraiment de problème. Et puis il doit compter du côté israélien sur quoi ? Sur des comptables, sur des avocats, etc., qui vont créer de fausses activités pour justifier auprès des impôts le fait qu'il emploie 200 personnes et non pas 100 personnes. Donc vous n'avez plus simplement des chaînes de médiation pensées de manière individuelle, vous avez des mécanismes de régulation qui se mettent en œuvre, qui sont quelque part des phénomènes d'individuation, avec plusieurs acteurs qui vont jouer comme un espèce de gros nœud à travers, va filtrer un certain nombre de circulations. Mais qu'est-ce qui se passe finalement ? Vous avez une multiplication des connexions, vous avez une réduction des réseaux des canaux de connexion qui deviennent de plus en plus étroits, de plus en plus régulés, parce qu'il faut faire attention, il faut faire des enquêtes, il faut checker les gens qui passent, etc. Donc vous avez finalement de plus en plus de connexions entre Israéliens et Palestiniens, mais vous avez une forme de congestion des rapports entre ces gens, et surtout une congestion des rapports au sein de la population palestinienne. Alors j'en arrive à ma conclusion, et je vais terminer en 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? On voit que les effets spatiaux du régime de permis israélien vont bien au-delà du confinement territorial des Palestiniens et de la réduction de l'étendue de leur mobilité ou de la fréquence de leur mobilité géographique. Le régime de permis, il a généré le développement de chaînes formelles et informelles de médiation extrêmement diffuses qui articulent les champs d'action de multiples organisations israéliennes, palestiniennes, étrangères et différents types d'individus. C'est pour ça que là, on est obligé de parler d'infrastructure. Et une infrastructure qui va bien au-delà de la définition institutionnelle de ce régime de permis, qui n'est lui-même pas une institution. Alors si cette pratique spatiale, si on reprend la catégorie de Lefebvre, donc l'articulation de ces champs d'action, elle est particulièrement disjointe des espaces qui sont conçus, hein, que je vous montrais sur des cartes, où on voit des frontières, on voit certes une imbrication, mais tout est séparé, tout est bien séparé, le rouge d'un côté, le jaune de l'autre, le rose pâle, le gris, etc. Donc finalement, cette pratique spatiale, elle semble remettre en cause ces espaces conçus. En fait, pas vraiment, pas vraiment. Parce que si on réfléchit bien, ces réseaux, ils jouent un rôle central dans le confinement territorial des Palestiniens, dans la mesure où ils réduisent la circulation du flux d'informations et d'interactions, et ils réduisent la dynamique de circulation des vrais faux permis. Des vrais permis, des faux permis, etc., etc. Et même de la circulation des gens qui contournent les checkpoints. Donc, ces réseaux augmentent la complexité. Pourquoi ? Parce que ces réseaux, ils augmentent la complexité des procédures et ils rendent le fonctionnement du régime de permis de plus en plus opaque. Même si toutes les ONG ont compris comment fonctionne ou tentent à comprendre presque comment fonctionne ce régime de permis, au point de faire des petits jeux vidéo, un très beau jeu vidéo qui a été fait par l'association qui s'appelle Guicha sur le fonctionnement du régime de permis israélien, mais on est dans une définition très juridique et institutionnelle. Tout ça, ça n'a absolument pas droit de cité dans les rapports que font ces ONG. Ou alors on vous parle de corruption, de déviance, mais on est encore dans une marginalisation de pratiques qui font fonctionner ce régime de permis. Et cette économie informelle, si vous voulez, comme je vous le disais, elle vient augmenter la... Elle n'est pas marginale, parce qu'elle augmente la distance topologique entre les deux populations, et elle réduit la fluidité des canaux de médiation. Ceci nous conduit, donc, je pense, à penser différemment le type d'asymétrie qui prévaut entre Palestiniens et Israéliens dans leur rapport à l'espace. Les travaux qui portent sur les configurations territoriales nous parlent d'espaces israéliens continus, lisses, contre des espaces palestiniens discontinus, fragmentés, striés. Hein. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette logique et rentrer complètement dans la dynamique des flux et nous parler d'espaces, ou non plus pas simplement d'opposer l'un à l'autre, mais de parler de plusieurs spatialités. Vous avez des territoires continus opposés à des territoires discontinus ou fragmentés, mais vous avez aussi des spatialités fluides et des spatialités visqueuses. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de spatialités visqueuses. Car en saturant et en congestionnant les canaux de médiation, ces chaînes de relations, ou cette économie informelle, elle ralentit la dynamique d'interaction entre les Palestiniens. Et elle affecte aussi les relations entre Palestiniens et Israéliens, car elle cantonne ces deux populations dans des spatialités, des temporalités disjointes qui leur donnent l'illusion d'être séparés territorialement et d'être très loin les uns des autres, alors même que, comme je vous l'ai montré, le nombre de connexions s'est multiplié entre toutes ces populations. Et je parle de connexions, pas de liens. Je ne veux pas faire de hiérarchie entre des liens forts et des liens faibles. Tout ce que je vous ai montré, ce sont des liens faibles, mais des liens faibles qui sont déterminants dans la structuration de ces sociétés. Le problème de ces approches nationales et territoriales, c'est qu'elles sont obsédées par les liens forts. Et un certain nombre de liens forts extrêmement spécifiques. Donc, d'une certaine manière, le régime de permis israélien reproduit les effets de certaines technologies frontalières du capitalisme global et postcolonial qui ont été décrites par Shora Makarimi, par exemple, ou encore Sandro Mezzadra et Brit Nielsen, puisque ces technologies de contrôle, elles ne visent pas tant à séparer territorialement des populations, mais plutôt, comme je vous le disais, à les inscrire dans des temporalités, des spatialités qui leur donnent l'illusion d'être séparées les unes des autres. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Cédric, pour ta présentation. Alors, qui nous donne, on a l'impression de partir dans un autre monde après la présentation de Charles. Déjà dans une société qui semble beaucoup plus justement structurée, régulée, bureaucratisée, avec tout un système. Et au final, au contraire, il y a énormément de liens à tirer entre vos deux présentations, notamment sur ce que le contexte justement contraignant crée comme rôle des acteurs, comme développement des acteurs, comme économie bien sûr également, sur ce réseau d'acteurs. Alors peut-être que Charles, tu pourras aussi réagir ou pendant le déjeuner, sur cette notion de réseau que toi, tu n'as pas utilisé, mais peut-être est-ce que ça te parle ou au contraire non, tu utiliserais autre chose. Donc des acteurs, facilitateurs, intermédiaires, etc. Et puis sur la frontière légale et illégale, ce qui est régulier, irrégulier, puisqu'on aurait l'impression que finalement dans l'espace saharien, on aurait des circulations qui seraient en dehors de tout cadre, en dehors de toute régulation, et qui sont souvent décrites comme illégales, alors que généralement elles sont souvent dans le cadre du droit légal. Et à l'inverse, Cédric, tu parles d'un régime de permis, donc qui tend à bien rationaliser normalement, et puis finalement on voit tout ce que ça implique comme pratique, également de faux permis, mais aussi de relations justement plus ou moins rationnelles qui vont se mettre en place. Alors on va ouvrir le débat, mais avant je poserai une question qui finalement devient un petit peu traditionnelle dans ce séminaire, même s'il n'est pas très ancien, c'est de vous demander quelle est la place de votre discipline à chacun dans votre approche. En tout cas, quelle place vous y voyez, quel rôle vous voyez, parce que tous les deux, vous avez en tout cas, ce qu'on peut relever, c'est que tous les deux, vous faites appel à de la littérature qui ne relève pas forcément de votre discipline. Et puis, on ne peut pas cantonner votre approche à votre discipline propre, je crois. Donc, si vous pouviez, voilà, chacun dire finalement quelles sont vos inspirations disciplinaires et en quoi votre discipline de rattachement est déterminante ou pas. Et puis après, on ouvrira aux questions.
Bon. Ok, donc on va ouvrir après. Moi, j'ai plein de questions aussi pour Cédric. Alors, les disciplines, moi, je ne me suis jamais senti dépendant d'une discipline plus que d'une autre. Donc, bon, je suis historien. J'ai fait une thèse en histoire sur un temps long, sur un temps précolonial, comme on dit, une formulation un peu curieuse, où donc j'ai observé dans le temps long, ce que je disais tout à l'heure, à partir du XVIIe siècle, jusqu'à la conquête coloniale, à la fin du XIXe, dans cette zone du Nord-Mali, comment est-ce que un groupement politique s'était constitué. Donc voilà, donc ça c'est mon approche historique de voir comment dans le temps ça se constitue. Mais j'avais d'entrée de jeu, en fait, juste la volonté de faire, non pas une. Enfin, là, quand on sort de sa propre société pour faire l'histoire d'une autre société, on est, selon moi, obligé de franchir le pas et d'aller vers l'anthropologie. Enfin, c'était évident, quoi. Pour moi, c'était évident. Et d'ailleurs, dès mes premiers travaux de maîtrise, j'ai tout de suite rencontré des anthropologues, j'ai tout de suite rencontré quelques géographes qui étaient ceux qui travaillaient sur cet espace du Sahara et du Sahel. J'ai lu des historiens, j'ai lu des anthropologues. Donc voilà, moi, je ne me suis jamais
senti. Ici, je vais le chercher. Je reviens tout de suite.
Je me suis jamais senti enfermé dans une discipline et j'ai eu la chance de pas être confiné là-dedans par mon directeur de thèse à l'époque ou par les gens qui m'encadraient. Et j'avais, enfin, je dis ça pour les étudiants ici, j'avais donc un jury de thèse qui était constitué par deux historiens sur cinq, et les autres étaient anthropologues ou sociologues. Quoi. Donc, voilà. Et alors, pour faire le lien aussi avec cette histoire de réseau, mon sujet de thèse, donc, qui est ancré donc, dans la discipline historique, était justement montrer un peu la tentative d'appréhender un groupe politique à travers un nom qui était reconnu. Bon, c'est une des tribus Touareg, là, une des grandes confédérations, comme on a traduit à l'époque coloniale, une des cinq grandes confédérations du monde Touareg. Et ce que j'avais pu lire sur l'organisation politique du monde Touareg, en fait, ne collait pas du tout avec ce que je pouvais observer sur le terrain, à la fois dans mes discussions historiques et à la fois dans les situations contemporaines. Donc du coup, vraiment, ce travail d'histoire au 18e, au 19e, en travaillant avec les sources écrites, des manuscrits arabes, les récits des explorateurs, et aussi avec beaucoup de traditions orales, j'ai essayé de confronter tout ça pour finalement me poser la question, en fait, quel est ce groupement, quelle est cette entité politique sur laquelle je travaille, et comment est-ce qu'on l'appréhende? Alors, est-ce que ça peut se situer dans l'espace, comme nous le disent les cartes, justement, ça renvoie à ce que montrait Cédric tout à l'heure, on a l'habitude de se représenter l'espace à travers la première carte qu'il a montrée. Et ça, c'est marrant, parce que ce sont les fameuses cartes de la bibliothèque coloniale depuis donc, le début du XXe siècle, et qui étaient reprises ensuite par des géographes ou par des anthropologues, qui était passé vers des études quand même post-coloniales, où on allait faire les choses différemment. Mais à chaque fois qu'on représentait des noms sur une carte, moi, j'étais vraiment embêté là-dessus. Et mon introduction de thèse porte là-dessus, en disant, mais ça, c'est une vision complètement tronquée du réel, parce que ce qui se passe, c'est plutôt une appartenance à des liens. Et c'est pour ça que les sous-titres de ma thèse étaient alliance, relation de pouvoir et identité. En fait, qu'est-ce qui crée l'existence de ce groupe, si ce n'est une mémoire commune, une mémoire partagée, des alliances avec des rapports de domination, et le recours en fait à des noms ou à une mémoire, et tout ça de manière très polysémique, c'est-à-dire que on pouvait être de l'intérieur, on employait le terme générique des Ouliminden. Les Ouliminden sont les Touaregs sur lesquels j'ai travaillé. Et à l'intérieur de ce groupe, il y avait plein de tribus qui se disaient « Non, nous ne sommes pas les Ouliminden. Les Ouliminden sont les dirigeants, les tribus dirigeantes. » Et quand on sortait de cet espace tribal, quel que soit le lieu où on se trouvait, et quand on interrogeait les voisins, qu'ils soient Touaregs, Arabes, Peuls ou Sorains, ils disaient « Ah ben les Ouliminden, ce sont eux, quoi. » Et donc mettaient une projection spatiale en disant voilà, ce sont les gens qui sont à Ménaka ou qui sont sur Gao, qui étaient sur Gao avant et qui étaient sur Ménaka. Donc très très tôt, moi, ce cloisonnement disciplinaire, en fait, j'étais pas à l'aise du tout avec ça. Et pour revenir à ce que j'ai présenté là, en fait, c'est en parlant que je me dis que tiens, c'est toujours ce désir de confronter la réalité que l'on sent. Je pense que c'est pareil pour Cédric. Avec ce qu'on nous rapporte, tout ce qu'on nous dit, avec tout ce qui est prêt à penser, au niveau, effectivement, le déterminisme du territoire, de la nation, etc. Et peut-être, là, j'en dirais un autre mot aussi, mais j'en ai pas parlé là dans mon exposé, mais c'est justement l'impasse de ces rebelles Touaregs qui, aujourd'hui, revendiquent un territoire qui serait normé, qui se calque à des limites administratives de trois régions qui sont devenues cinq aujourd'hui. Alors même que ces gens-là qui portent ces revendications ne vivent pas leur inscription politique à l'intérieur de ces régions. Ils ont des réseaux, ils ont des liens, ils ont des connexions qui sont complètement en dehors de ces régions-là. Et par contre, de porter cette revendication, c'est exactement ce que tu disais là sur les Palestiniens, c'est une représentation du politique spatialisé en disant voilà. La seule manière de se faire entendre aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs aussi sans doute l'impasse des Palestiniens, on peut parler des Sahraouis aussi, etc., c'est de revendiquer donc un État, nous sommes un peuple, donc il nous faut des frontières, il nous faut, etc. Alors que la société réelle, ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc c'est ce qui explique Retailler un peu, et l'intelligence, enfin, là-dessus, le coup d'avance, en tous les cas, des groupes djihadistes et islamistes dans le Sahara, c'est qu'ils ne sont pas là à revendiquer un territoire. Ils s'appuient vraiment sur des connexions, sur des réseaux qui vont jusqu'à des mariages, jusqu'à des liens forts ou moins forts, etc., et qui fonctionnent de manière complètement en dehors de ces frontières-là, et qui existent bel et bien. Voilà. Des disciplines.
Des disciplines.
Ben, moi, je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire là, l'anthropologie. Enfin, je ne sais plus ce que je fais vraiment. Parce que. Enfin, je trouve que très vite, on arrive dans une impasse si on se cantonne à la littérature au sein d'une discipline. Hein. Lefebvre, il est quoi? Il est anthropologue. Il est publié chez Anthropos. Il est repris en permanence par des géographes, des sociologues. Par contre, je trouve que les anthropologues l'ont complètement laissé de côté. Alors, peut-être que je n'ai pas lu les bons travaux d'anthropologie. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, cette approche de l'espace, elle est. Si j'étais resté dans une approche très anthropologique ou alors très science politique, parce qu'à un moment, j'ai fait un petit passage par la science politique, je ne serais pas arrivé là. En fait, l'idée que tout le monde est connecté, c'est-à-dire le postulat de départ, c'est-à-dire que tout le monde est connecté dans ces espaces israélo-palestiniens, c'est quelque chose que j'ai développé c'est une idée que j'ai développée en faisant ce premier essai de carte. C'est juste deux mois.
Ça s'appelle encore une carte.
Enfin, un an ou de schéma. Enfin, je veux dire, au début, c'était de cartographier l'espace israélo-palestinien sous les cartes. Et en fait, c'est un truc qu'on a fait avec un artiste. Et puis des collègues sociologues, géomaticiens, je crois, c'est ce qu'on dit. Bon, Mathieu, c'était géomaticien. Et l'idée, c'était de reprendre donc tous les liens que j'avais observés sur le terrain. Ça, c'est juste deux mois de terrain. C'était un essai. Donc, c'était tous les liens que j'avais observés sur le terrain et de les cartographier en fait, et de voir quels sont les liens entre les acteurs. Et ça, c'est un truc que j'ai fait en 2005. Donc, c'est l'état des relations entre les gens que j'ai côtoyés en Israël-Palestine en 2005, au moment même où la mise en œuvre de la politique de séparation est certainement la plus violente. Et donc, ce dont je me suis aperçu, c'est que tous les liens entre les Israéliens et les Palestiniens, ce sont des liens qui sont liés à des demandes de permis. Et ce que cette carte... Enfin, ce schéma montre, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement contre-intuitif. C'est-à-dire que les Palestiniens de Cisjordanie sont pas du tout liés aux Palestiniens de Gaza. Parce que d'habitude, on vous dit, vous avez les Palestiniens des territoires occupés et les Palestiniens d'Israël, ou même les Arabes d'Israël. Oui. Normalement, on dit Arabes de 48, mais vous avez beaucoup de gens qui continuent à dire Arabes d'Israël en reprenant le terme hébreu. Harvey Israël, c'est-à-dire que là on est vraiment à la catégorie coloniale. Or, justement, là ce qu'on voit, c'est que ces Palestiniens d'Israël sont vraiment en position d'intermédiation entre les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Alors, évidemment, c'est pas tous, hein, mais c'est des gens que j'ai côtoyés. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'était les relations entre les Juifs israéliens et les Palestiniens de Cisjordanie, alors même que justement tout le monde nous parlait de séparation. Et donc c'est un peu ce détour par des expériences art sciences qu'on a fait dans le cadre de l'Anti-Atlas des frontières que j'ai pu justement changer complètement, non pas simplement mes hypothèses, mais changer de modèle visuel. Parce que le territoire, c'est quoi? C'est un modèle visuel, finalement. C'est cette espèce de modèle visuel géométrique. C'est la géométrisation de l'espace, d'une certaine manière. Et je trouve que Lefebvre, là-dessus, a un passage vraiment intéressant. Et donc, voilà, donc là, l'anthropologie, je ne suis pas très accroché. Enfin, j'aime bien mon travail parce que j'aime beaucoup la pratique de l'enquête en anthropologie. Mais après ça, je pense qu'il faut faire des sciences humaines et pas tellement s'accrocher à une discipline. Voilà.
Alors, on va ouvrir aux questions, si vous en avez.
Une première aux
auteurs.
Vous avez nommé Agnew sur l'isomorphie de nation, territoire, etc. Et après, vous avez nommé deux anthropologues dont j'ai oublié le nom, pas compris.
C'est Gupta, c'est Achille Gupta et James Ferguson. Je crois que c'est James Ferguson. C'est un article de 1992. Je ne me rappelle plus du titre de l'article.
Ouais, non, je le trouve.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui.
Je voulais savoir si vous aviez de réactions.
Moi, je suis Abdoulaye Guindo, je suis anthropologue et je suis doctorant. J'ai suivi avec un grand intérêt les présentations et je pense que je peux lier les travaux à ce que je fais. Et ça peut me servir peut-être déjà une sorte de validation de ce que je suis en train de faire. En fait, je travaille sur les enfants dans les services de pédiatrie et j'ai beaucoup travaillé par rapport à l'accès aux soins de santé des enfants sur l'espace vécu. C'est-à-dire comment, à partir de 1990, je crois, le Mali avait engagé une politique de territorialisation du système de santé en mutualisant toutes les ressources qui pouvaient se trouver au niveau des structures de santé, c'est-à-dire en mettant en place un système de référence. Voilà, le malade, une fois que tu es sur le territoire malien, selon la maladie que tu as, tu pourrais commencer par le premier système et monter selon le besoin qui nécessitait la prise en charge de ta maladie, acheminer jusqu'à l'hôpital. Alors, de ce point de vue, tous les habitants du Mali qui devraient être malades pouvaient avoir la même chance d'être traités de la même manière, quelle qu'en soit la structure de santé dans laquelle certainement cette personne a été admise. Alors, moi, mon enquête a montré effectivement que souvent, dans la pratique, cela n'est pas le cas. Par exemple, quand je vois l'espace vécu, les gens qui quittent un village pour aller se rendre à Bamako, très généralement, c'est des gens qui ont moins de connaissances à Bamako. Et une fois que ces gens venaient à l'hôpital, pratiquement, c'est des gens qui étaient pratiquement perdus. Alors que les gens qui habitent Bamako, quand ils quittent leur domicile pour se rendre à l'hôpital, ils ont beaucoup plus de chances de connaître les gens. Et du coup, comme vous l'avez dit, l'espace, le circuit des malades devient plus court pour eux parce qu'ils ont des, ils peuvent carrément sauter des étapes. Par exemple, l'étape de prendre des tickets de consultation, il suffit juste d'appeler un ami et tu es pris en charge et tu es bien traité. Donc, de ce point de vue, je pense que l'espace vécu, c'est vraiment très intéressant et je pense que ça me fortifie dans mon analyse et je pense que cet espace, ça peut constituer une sorte de validation, même si voilà, je n'ai pas encore présenté ma thèse, mais voilà, je pense que ça peut aller dans ce sens. Le second truc, c'est les réseaux. Ça également, je pense que Charles l'a parlé, vous également, vous l'avez noté. C'est-à-dire que comment, dans un espace contraignant, les gens qui maîtrisent l'espace arrivent à soutirer des bénéfices par rapport à cette contrainte-là. Et moi, dans mon cas, c'était ce qu'on appelle les étudiants stagiaires. C'est-à-dire que l'hôpital n'a pas tellement de moyens pour recruter. Alors, il y a des étudiants qui ont fini et qui, dans l'espoir d'être recrutés, viennent travailler de façon bénévole au niveau de ces services-là. Et l'hôpital ne leur donne rien. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils essaient de créer des réseaux de soins. Ces réseaux, comment ils se font? Une fois qu'ils consultent un malade, ils essaient d'échanger leur numéro de téléphone. Ah, désormais, quand tu viens, tu m'appelles. Ou bien, quand moi j'ai un réseau, je suis une femme, j'amène mon enfant en consultation, en rentrant à la maison, je vais donner à ma voisine qui va aller demain en consultation. Je dis, bon, quand tu vas, appelle un tel et tu diras que tu viens de ma part. Donc, ils ont un certain nombre de réseaux comme ça, de 10 personnes, de 15 personnes. Et quand ces gens viennent, ils les appellent. Donc, ils sont accueillis, ils doivent passer avant les gens, avant les autres qui sont arrivés avant eux, et ils sont très bien traités. Quand ils sont traités, ces gens, en partant, voilà, ils leur donnent de l'argent. Ils disent qu'ils ne demandent pas de l'argent, mais c'est, voilà, il y a une sorte de rétablissement qui est là, qui fait qu'ils leur donnent 2000 francs, 3000 francs. Donc, du coup, ces étudiants internes, ou stagiaires, ou bénévoles, à la fin de la journée, partent à la maison avec quelque chose. Et les responsables également sont au courant de tout ça, parce que c'est structuré, c'est interdit. Les bénévolat est interdit, mais donc, voilà. Et même, ils se reconnaissent comme bénévoles, parce qu'ils n'ont pas de truc, quoi. Donc je pense que de ce point de vue également, en termes de réseaux, comment ces gens constituent des réseaux qui les permettent de vivre quoi, normalement, dignement de leur travail. Je pense que ça aussi, c'est vraiment intéressant. Donc du coup, moi je pense que ça m'intéresse beaucoup, voilà, les présentations, et ça me met un peu plus, je pense, à l'aise par rapport à ce que je suis en train de faire, quoi, que je suis peut-être sur une bonne voie. Voilà, je pense que de ce point de vue, c'est vraiment intéressant pour moi.
Oui, vous voyez un écho tant dans le réel que dans les notions peut-être
tout
à fait, qui
tout.
Ont
même
été utilisées.
L'espace vécu, les circuits, moi je parle de circuits, peut-être qu'ils parlent d'espace. Moi, l'espace vécu, c'est un peu géographique, mais c'est les circuits. Quand vous connaissez quelqu'un, le circuit devient court, mais quand vous ne connaissez pas quelqu'un, ça devient long. Mais l'espace, c'est les mots aussi, je n'ai pas d'espace de soins, ce sont des espaces.
quand vous quittez un point A pour aller à un point B, parce que le circuit, c'est que vous rentrez en consultation, et vous devrez passer par la consultation externe, on doit vous trier, vous allez peut-être aux urgences, vous devrez être hospitalisé et tout ça. Tout un circuit, normalement, c'est bien réglementé. Mais ce n'est pas de la même façon dans la pratique. C'est qu'il y a des gens qui sortent des étapes, ça devient moins court, voilà, plus court pour eux. Et ils sont bien traités encore du point de vue qualité. Et il y a tout ça, donc voilà. Je vous remercie beaucoup.
Merci. Et je ne sais pas si ça vous fait réagir, mais aussi entre vous, est-ce que vous avez peut-être des questions
Oui, on
et
en
des
a, mais
réactions pour le garder pour après les... si... ouais. Alors,
pour faire un peu... pour un peu débattre. Sinon, parce que là, j'étais d'accord, j'ai adoré les présentations et tout, ça m'intéresse, je connais aussi assez bien les lieux, mais j'étais vraiment sur cette question des réseaux que je trouve super intéressante, ça m'intéresse aussi exactement dans mes recherches actuellement, mais j'ai réagi un peu comme ça dans ma tête, je ne savais pas exactement à un moment, Cédric, je pense que tu as parlé des... est-ce que c'est les profils des personnes qui comptent ou c'est les réseaux? Et là, à nouveau, on fait une opposition un peu binaire parce que je trouve que... Enfin, je me questionne sur, effectivement, c'est pas... Peut-être là, c'était les profils pour la question de la délivrance du permis, c'était pour ça qu'on utilisait ces thèmes. Mais je pense que les réseaux ne vont dire rien sans les ressources des personnes. Enfin, je voulais savoir un peu plus sur cette dynamique, de dire est-ce que les réseaux, ça résoudre d'éviter de faire des catégories, enfin on fera des catégories des réseaux plus ou moins si on veut éclaircir des choses, et en réalité les profils des personnes dans les réseaux jouent énormément sur les fonctionnements de réseau ou sur des dynamiques que ce réseau peut avoir. Je ne sais pas si je m'explique, mais je peux aller d'un point A à B et je peux être très capable d'exploiter ces réseaux, de ne pas l'exploiter, de l'exploiter de la bonne manière, de ne pas être considéré comme un acteur fiable dans les réseaux, d'être stigmatisable dans ce réseau. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'autres, à mon avis, éléments qu'ils peuvent compter sans nécessairement être des catégories standardisables comme l'ethnicité ou la religion, je ne sais pas, pour faire jouer du profil dans la création d'un réseau. Quoi.
Ce que je voulais simplement dire, c'était que les quelques articles qui portent sur le fonctionnement du régime de permis israélien, bon, pour contextualiser un peu, sont soit des travaux d'avocats, de juristes israéliens qui se focalisent sur les procédures et donc qui détaillent les procédures, leurs incohérences, etc. Soit ce sont des Palestiniens ou des gens qui travaillent plutôt du côté palestinien qui n'ont pas accès aux procédures et qui n'ont accès qu'à une chose, c'est-à-dire ce qu'en disent les gens. Mais ce qui est assez intéressant, ce qui est d'ailleurs ma position, hein, parce que moi j'étais plutôt du côté comment le vivent les gens qui demandent des permis, etc. Le truc, c'est que les gens qui travaillent donc du côté palestinien, plutôt avec les Palestiniens et leur vécu de ce régime de permis, ont, je ne sais pas pourquoi, se sont focalisés sur le profil des gens. D'accord ? Un profil qui sont d'ailleurs incapables, le profil et les critères d'évaluation qui sont définis par les services de renseignement israéliens, mais que personne ne connaît. Donc ce qui est super intéressant, c'est que tu as des gens qui vont dire, alors donc il y a les catégories identitaires, enfin les catégories statutaires, c'est-à-dire est-ce qu'on est palestinien de Cisjordanie, de Gaza ou de Jérusalem, ou palestinien d'Israël, bon si on est palestinien d'Israël ou de Jérusalem, on n'a pas besoin de permis. Si on est à Gaza, on a un traitement particulier, on passe par des institutions particulières. Si on est en Cisjordanie, c'est deux institutions. Et à l'intérieur de la Cisjordanie, il y a, là encore, en fonction des régions où on est, on ne demande pas le même permis, etc. Mais il y a ce système de profiling, de profil biosocial, c'est le terme qui était assez souvent utilisé, où en fait, on nous parle d'une individualisation du contrôle frontalier, hein, ou du contrôle tout court. Et donc c'est la personne qui, en se déplaçant, va déclencher toute une série de contrôles en fonction de son profil biosocial. Or, moi, ce que j'essaye de montrer... Alors, moi, je dis que ça pose un peu problème, ce type d'approche, si on se limite qu'à cela. Je dis pas que ça n'a pas... que ces catégories ne sont pas opérantes. Bien entendu, non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que ce qu'elles disent, ces catégories, c'est qu'on est palestinien et qu'on habite la vallée du Jourdain, et que donc
on doit avoir tel ou tel système, tel ou tel type de permis pour se déplacer à tel ou tel endroit. Mais c'est tout ce qu'elles disent. Elles ne prévoient absolument pas l'étendue du déplacement de cette personne. Ce qui va déterminer l'étendue, le déplacement actuel de cette personne, c'est ses connexions à l'intérieur de cette machine incroyable qui vont lui permettre d'abord soit peut-être d'obtenir un permis un peu rapidement ou de ne pas l'obtenir, etc., etc. Et c'est là où je dis que le réseau, finalement, est celui qui décide la position dans le réseau et non pas le profil de la personne. Un profil, c'est interchangeable, presque. Une position dans un réseau, elle est plutôt relationnelle. Hein, elle s'inscrit dans une configuration. Et donc, ce n'est pas un profil standardisé qui va déterminer quelle est l'étendue du déplacement. Le profil ne fait que limiter l'étendue du déplacement des Palestiniens ou de dire, voilà, ils doivent se soumettre à telle procédure ou à telle procédure. Après ça, la manière dont se met en œuvre la procédure, la manière dont c'est actualisé, dépend du réseau de relations dans lequel cette personne est intégrée, du réseau de relations que les services de renseignement israéliens lui attribuent et qui lui échappent, etc., etc., etc. C'est dans ce sens-là, en fait, je veux dire. Ce qui ne veut pas dire que... Voilà, effectivement, la même personne dans le même réseau d'intermédiaires, deux personnes différentes ne vont pas être traitées de la même manière, mais parce qu'elles-mêmes, elles sont dans des relations différentes avec ces gens-là.
Merci Delphine, merci également aux présentateurs. Moi, c'est Nekoumou Diouf, alors je suis doctorante accueillie au NPOD. Ma question s'adresse à Charles, parce que finalement, est-ce qu'on peut dire alors que ces migrants que vous avez étudiés n'ont pas de projet migratoire fixe? Parce que vous avez expliqué qu'à un moment, au cours de la route, il les arrive de trouver des opportunités en réalité dans certaines zones et de décider de s'y installer. Comment se fait, comment ils obtiennent des informations par rapport à l'existence, par exemple, de mines d'or en cours de route et comment est-ce qu'ils décident de s'installer dans ces mines d'or aussi? Ces décisions, comment ça se prend en cours de route?
Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un projet migratoire, mais si c'est, tiens, je quitte tel point pour aller vers tel autre point, en espérant aller à un troisième point derrière, etc., si c'est possible. Mais ce que j'ai voulu dire là tout à l'heure, c'est qu'effectivement, même si ce projet se constitue au départ, il peut être redéfini en cours de route largement, quoi. Et que je pense que le principal projet, alors encore une fois, hein, c'est ce que je disais au départ, moi j'ai pas travaillé tant que ça sur la migration, sur les migrants, etc. Mais quand quelqu'un se lève pour faire un voyage compliqué et pour aller travailler, c'est d'abord dans cette action même de se lever et de partir de ce qu'il quitte. Donc les raisons sont aussi sur pourquoi est-ce qu'il... Enfin, avant même de choisir la destination, c'est quelqu'un là, qui bouge et qui s'en va aussi parce qu'il quitte une situation. Et ensuite, si c'est une réalisation sociale qui passe généralement souvent par l'argent, par amasser un pécule, faire fortune, on pourrait dire, de plus en plus, enfin, avec les gens avec qui j'ai pu m'entretenir en tous les cas, si ça doit être en Europe, parce qu'on pense que c'est en Europe que là, on peut gagner beaucoup d'argent, okay. Si c'est en Libye, parce qu'à un moment donné, on est beaucoup mieux payé qu'au Niger ou qu'au Mali ou qu'en Côte d'Ivoire, ben ce sera en Libye et ce sera peut-être plus proche. On pourra raconter d'autres choses ensuite, quoi. Mais, et si en cours de route, effectivement, on croise d'autres camarades qui disent « Mais il y a des mines d'or, là, et on cherche de l'or ici, et tu peux faire fortune », selon la personnalité des individus aussi, le trajet pourra changer de route, quoi. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, à mon avis. Tous les voyageurs et qui les aventuriers, là, comme ils disent, avec qui j'ai pu m'entretenir au Maroc, ne sont pas absolument complètement à fond déterminés sur le passage vers l'Europe. Ça se construit. Parfois, ça se renforce. Parfois, non. Et effectivement, il y a le phénomène de groupe, le phénomène de discussion, le lien aussi que les uns ou les autres peuvent conserver avec leur famille, avec leurs amis, ou ne conservent plus. Je me souviens d'un étudiant nigérien, Ismaël Maïga, qui était très très en lien avec sa maman au Niger, et qui me raconte qu'elle, elle lui déconseille absolument de partir en Europe parce qu'elle regarde la télé chez elle à Niamey et elle voit les gens en train de mourir, quoi. Et ça, peut-être que lui le perçoit comme ça et qu'un autre le dira, bah non, enfin, peu importe ce que pense ma mère, mon père, etc., je vais aller au bout de mon aventure, quoi. Donc, si je pense, enfin, après, voilà, je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question-là, mais je pense qu'il y a un projet, mais surtout le projet de il y a quand même une formulation que Samakedi, je ne sais pas si c'est dans les 10 minutes que j'ai conservé, c'est que j'ai entendu souvent, c'est aller voir un peu devant, quoi. Aller voir un peu devant ce qu'on va trouver. Et ça c'est vraiment important. Et bon, je sais pas pour tous celles et tous ceux qui ont voyagé aussi. Parfois, on se dit, voilà, on prend un billet de train ou un billet d'avion et on va voir un peu devant et on organisera ensuite, quoi. Alors, évidemment, il y a des touristes qui organisent tout de A à Z. En 2 semaines, ils savent qu'ils vont dormir là ou là, mais le voyage, ça se passe encore comme ça, quoi, même si...
À t'écouter, et il faudrait que tu me dises, est-ce que bon, il y a plusieurs sortes de permis. Là, tu nous as parlé du permis de travail. Moi, ce qui m'a étonné, c'est cette espèce de quotidienneté du permis. Enfin, c'est la gestion de folie que ça doit être. Les chaînes comme ça.
Permis de passer ou de travail ?
Du territoire. Donc, est-ce que c'est, tu pourrais dire pareil de d'autres notre permis d'accès à, je sais pas moi, des services hospitaliers, je sais pas moi. Est-ce que c'est spécifique ce que tu nous racontes là, à un permis qui a une temporalité un peu, qui est quand même importante, 6 mois, et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un autre permis qui est encore plus rapide, quoi, dans son accès, etc. Après, je comprends bien je vois bien la vertu heuristique d'avoir recours au réseau, pour casser tout ce que tu nous as dit, c'est prêt à penser très fort, ces idéologies très fortes qui sont sur ces terrains-là, le point de vue juridico-administratif, le point de vue aussi suivre un demandeur et suivant ses caractéristiques sociales, voir effectivement comment il va être traité différemment, etc. Toi, par le réseau, ça te permet de casser tout ça et de montrer autre chose, notamment l'hybridité de tous ces acteurs institutionnels, publics, privés, individus, groupes, etc. Bon, d'une certaine manière, ça rejoint une certaine littérature qu'on retrouve, toutes choses également ailleurs, sur les procédures d'administrés ou de personnes, procédures de demande de visa, par exemple. Certes, on a le truc, machin, et puis après, on a le réseau, on va avoir un tel qui va faciliter les trucs, etc. Bon, mais de ton point de vue, je comprends que pour toi, c'était vraiment une façon de retourner pas mal de points de vue sur la situation. Après, là où je me demande s'il n'y a pas une limite, et finalement, le recours à l'anthropologie va être pas mal, c'est finalement en savoir un peu plus quand même sur la compréhension de ces liens, sur ce que tu disais, la texture de ces relations entre Palestiniens et Israéliens, et sur, justement, re-questionner ce que tu disais, est-ce qu'il y a séparation ou pas. C'est là que moi je me dis, ça aplatit, mais c'est la critique qu'on peut faire au réseau. Au final, il n'y a plus de hiérarchisation, il n'y a plus de... Dans ces réseaux, c'est plat, on voit un lien, mais on voit un lien, mais on ne sait plus le contenu de ce lien et l'épaisseur de ce lien. Donc... Voilà,
est-ce que tu vois des limites à cette méthode? Alors, bon, tout d'abord sur les permis, en fait, pour recontextualiser un peu avant,
En fait, des années 70 jusqu'à 87, les Palestiniens avaient besoin d'un permis pour à peu près toutes les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire ouvrir une boutique, pour tout un tas de trucs, construire une maison. Et les Israéliens avaient mis en place ce système pour justement créer une forme de clientéliser à l'infini quoi, cette population, quoi, la rendre complètement dépendante et créer finalement, transformer toutes les activités anodines et quotidiennes, mondaines, en des lieux de négociation. Hein, et donc de réinstitution de ce rapport de pouvoir et de clientèle. À partir des années 90, comme il y a eu justement le retrait des troupes israéliennes des zones occupées, alors tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est que dans les années entre 87 et 93, les comités populaires, pendant la deuxième intifada, pendant le premier soulèvement populaire, ont demander clairement aux populations de boycotter l'administration israélienne. Construisez une maison, construisez-la sans demander un permis, vous voulez ouvrir un truc, faites-le sans permis, etc., etc. Boycotter les produits israéliens et compagnie. Et donc les Israéliens se sont dit, là, on est en train de perdre un truc. Donc ils ont inventé le permis de circulation, parce qu'avec le permis de circulation, ils étaient obligés, là, ils avaient un moyen de contrôler, de contraindre les Palestiniens à revenir voir les administrations israéliennes. Là, du coup, ils criminalisaient un ensemble de gens sur lesquels il était plus facile de mettre le grappin, on va dire. Hein. Désolé pour les termes un peu cavaliers. Et donc, ça a été un système qui a été pensé pendant la première intifada pour recréer une dépendance entre une population qui avait tendance à s'émanciper, d'une certaine manière, du pouvoir colonial. Après les années 90, ça a été un système formidable, puisque comme l'administration israélienne s'est retirée des zones habitées principales, c'est-à-dire les grandes villes et les grands villages palestiniens, et que c'est l'autorité palestinienne qui a repris l'administration de la population occupée, le fait d'avoir des permis de circulation en dehors de la Cisjordanie et de Gaza, ou pour entrer dans les colonies, ou pour accéder à un hôpital ou une prison, ou... Dès le moment où il y a une circulation vers Israël, vers l'institution israélienne, il faut un permis. Et là, donc finalement, ça a permis de conserver ce lien de clientèle avec la population de dépendance, hein, avec la population palestinienne. Et ces permis ont été développés il y a que des permis de circulation pour passer la ligne verte dans les années 90 ou entrer dans les colonies. À partir des années 2000, c'est... des permis pour accéder aux routes, pour conduire sa voiture sur les routes, etc., etc. Et puis avec beaucoup de Palestiniens qui ne savaient même plus pourquoi il fallait un permis, en fait, hein, pour quel type de déplacement il fallait un permis. Donc ça, c'est la première chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que vers 2007, après la deuxième intifada, le nombre de permis donc, a été réduit, et maintenant, il faut surtout des permis de circulation. Dès qu'on entre en Israël ou à Jérusalem-Est, il faut des permis, que ce soit pour aller travailler, faire du commerce... visiter un hôpital, visiter des parents dans une prison israélienne, etc., etc., etc. Donc ça pollue beaucoup la vie des gens, mais peut-être pas autant qu'avant, les années 80. Ceci dit, c'est un formidable dispositif de régulation, c'est un levier, en fait, pour réduire les activités économiques, les formes d'interaction sociale, et puis ça a un effet bœuf sur le politique, etc. Donc c'est vraiment un outil de régulation centrale dans les relations entre Israéliens et Palestiniens. Maintenant, merci d'avoir posé la question sur la question de la plus hiérarchisation. Alors, il y a une espèce de... C'est très curieux. C'est-à-dire que pour moi, je n'arrête pas de parler de pouvoir, de dépendance, de réseau de clientèle... parce que ces garants sont tous des patrons. Les ouvriers palestiniens, quand on dépend d'un alors dans l'article je le développe, un ouvrier pour son permis dépend de son employeur, à tel point que si son employeur n'a pas envie de déclarer qu'il a viré son ouvrier, un ouvrier ne peut pas avoir de permis ailleurs, puisqu'il a déjà un permis chez un employeur. Et il ne peut pas aller contacter d'autres employeurs, puisqu'il est obligé de se rendre sur son site de travail. Donc on a un dispositif ici qui ne crée pas simplement de la dépendance entre l'administration israélienne et les demandeurs de permis, mais entre des Israéliens et des Palestiniens de manière individuelle, et des rapports qui deviennent de plus en plus durs et étouffants, d'une certaine manière. Entre les organisations gouvernementales et les organisations de défense des droits de l'homme et les Palestiniens, on a aussi du réseau, mais là aussi on a des rapports de pouvoir. Ces rapports de pouvoir sont partout. Et ce qui est, alors c'est peut-être dans ma formulation, je rate quelque chose, mais c'est pas la première fois qu'on me pose la question. À chaque fois, alors cette projection, ça je la garde pour vous, hein, c'est pas pour.
Et même l'autre, quand tu montres
les points là.
C'est simplement pour vous dire.
C'est la projection qui est.
Mais c'est simplement la projection, c'est simplement pour vous dire, voilà, il y a des liens entre ces gens-là. Maintenant, ce que j'ai essayé de dire, c'était deux choses. J'ai essayé d'insister sur deux choses. Tout d'abord, la topologie, c'est-à-dire les rapports des uns par rapport aux autres. Alors, ce n'est pas simplement un point dans le réseau, mais c'est aussi les rapports de pouvoir qui existent entre ces personnes. La deuxième chose, c'est la dynamique des flux, c'est-à-dire dans quel sens circule l'information, avec quelle intensité, avec quel rythme. Et le pouvoir, on le trouve là-dedans. Alors, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je dise, c'est que le pouvoir n'est pas simplement mesuré en fonction des positions hiérarchiques entre les individus, mais peut maintenant être envisagé à travers l'intensité, à travers l'orientation des flux d'informations, le type de choses qui est échangé, etc., etc. C'est-à-dire qu'on peut justement sortir... Ah ben ça, c'est pas mal, ça. En fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Parce que cet article, on l'échange avec... On n'arrête pas de se le renvoyer avec les personnes qui m'ont invité à participer au numéro dans lequel il devrait être publié. Et ils reviennent sans arrêt sur cette question du pouvoir. Je me dis, mais c'est pas possible. Le pouvoir, pour moi, il est partout. Et d'ailleurs, alors, ça, ce sera dans mon HDR, c'est-à-dire que l'illustration de ces rapports hiérarchiques, je vais la décrire avec des descriptions extrêmement riches. Quand je vais, parce que, en fait, c'est, là, ce que je vous ai présenté, c'est en condensé l'HDR que je prépare, qui va s'appeler Israël-Palestine, un anti-atlas, où l'idée, c'est de repenser, justement, l'articulation des rapports entre ces populations à travers cette économie parallèle. Alors c'est un zoom, hein, mais c'est tellement diffus et ça touche tellement de choses, parce que là je vais parler de ce système de permis, mais on pourrait parler aussi de tous les réseaux qui organisent le passage sans permis des Palestiniens vers Israël, qui sont d'ailleurs tellement diffus que les services de renseignement israéliens les instrumentalisent pour pénétrer davantage les enclaves palestiniennes et avoir des informations qui viennent tout azimut. Ce sont les réseaux de contrebande qui ne circulent pas de ce côté de Palestine vers Israël, mais d'Israël vers la Palestine, puisque les enclaves palestiniennes sont une espèce d'énorme dépotoir pour tous les produits qui ne sont pas consommés par les Israéliens. Alors ça va de la vieille voiture qui part à la casse au sérum physiologique qui est complètement périmé et qu'on va refiler aux hôpitaux palestiniens, aux bonbons au chocolat pourri, le poulet périmé depuis 3 semaines. Enfin, toutes ces choses-là sont revendues du côté palestinien par des réseaux qui impliquent des colons israéliens, des trafiquants palestiniens, etc., etc., etc. Et tous ces réseaux sont de formidables mines d'informations et d'instrumentalisation pour les réseaux, pour les services de renseignement israéliens. Et d'ailleurs, ça va tellement partout qu'il suffit de se positionner là, d'instrumentaliser 2-3 personnes et d'avoir une vision générale sur cette société. Et là, on n'est pas dans le high-tech, dans le contrôle high-tech avec des drones, etc. On est vraiment dans le low-tech, quoi, dans le renseignement à la papa, quoi. Et voilà. Mais donc, sur cette question du pouvoir, c'est vrai que le pouvoir, du coup, quand je parlais de la symétrie, justement, entre Palestiniens et Israéliens, quand ils sont... on a donc... c'est une asymétrie qui rend compte aussi des rapports de pouvoir entre ces populations. C'est-à-dire on a des populations qui sont dans des formes de spatialité visqueuse, d'autres qui sont dans des formes de fluidité. Donc déjà, il y a un décalage, hein, il y a un rapport de pouvoir très net. Mais il y a aussi l'orientation de l'information, l'orientation de la circulation des permis, etc., qui diffuse... Mais alors ça, je n'ai pas assez de cet espace-là pour en parler, ni de cet article, ça j'en parlerai de mon HDR. Je pense qu'on va même au-delà des hiérarchies qui sont définies le long des fractures entre ethnoclasses. Parce que certes, les Palestiniens sont dans une forme d'interaction, enfin, dans des réseaux d'interaction complètement congestionnés, mais les entrepreneurs israéliens aussi. Alors évidemment, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même degré. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on a affaire aux Palestiniens, on est pollué par cette forme de conjonction des réseaux d'interaction. Parce qu'un entrepreneur israélien, là, c'est Yael Berda qui avait fait une analyse sur l'économie informelle, justement, tous les réseaux de relations, parce que la bureaucratie israélienne est complètement dysfonctionnelle, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas comme une bureaucratie, elle fonctionne comme un dispositif de pouvoir et de contrôle, ça c'est clair. Mais comme un dispositif bureaucratique qui est censé rationaliser une pratique, c'est exactement l'inverse. Elle ne fonctionne pas comme ça. Et donc, les entrepreneurs israéliens sont eux aussi obligés de rentrer dans des formes de viscosité. Hein ? Et ce qui est intéressant, c'est que là, la symétrie ne passe plus le long des lignes définies par les frontières nationales, mais par le type d'activité, avec des degrés, où là, pour le coup, on n'est plus dans des formes où on peut couper et dire là, on a tel truc et là, on a tel truc. On est vraiment dans une dynamique des flux, c'est-à-dire des formes de... Quand on a deux flux qui se rencontrent, s'ils se rencontrent de manière violente, il y en a un qui évacue l'autre, et puis quand ils se rencontrent de manière un peu moins violente, bah, il y a des formes de porosité, c'est là où ça... Pardon ?
De mélange.
De mélange. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'approche de Lefebvre. C'est qu'il a une, je trouve, une manière qui permet justement de traiter ces interactions dans l'espace syrien palestinien. Et alors, autant la tour, on peut dire qu'il a tendance à évacuer le pouvoir, mais alors Lefebvre, il est un peu complètement obsédé, on est d'accord. Il est complètement marxiste, donc le pouvoir est partout. Et d'ailleurs, dans l'espace conçu, c'est du pouvoir. Dans l'espace perçu, c'est du pouvoir. Et dans l'espace vécu, il y a du pouvoir partout. Voilà, mais... Effectivement, je devrais peut-être le préciser. C'est-à-dire que le pouvoir peut être identifié, alors je ne le fais pas là, mais en allant plus loin, on pourrait effectivement le tracer, ce pouvoir, pour le coup, en fonction de l'orientation, du rythme, avoir une espèce de nouvelle échelle d'évaluation des rapports de pouvoir entre Israéliens et Palestiniens, qui rentrerait aussi dans cette question de dynamique des flux, quoi.
Merci. Eh bien, écoutez, je crois que nous allons rester là pour aujourd'hui. Je vous signale les deux prochaines séances. Il y a une séance un peu inopinée et extraordinaire en partenariat avec le Sherpa qui aura lieu la semaine prochaine, le 6 avril, avec Philippe de Brucker et Philippe Aldrin, donc un juriste et un politiste, sur politique d'immigration et d'asile et politique de légitimation de l'Union européenne. Luttes et interactions des acteurs institutionnels.
C'est quelle date, ça ?
Donc c'est le 6 avril de 9h30 à 12h30 à l'IEP Espace Seguin. Et ensuite la séance suivante, le 27 avril, avec Ali Ben Saad et Hélène Thiollet de Sciences Po Série, pratiques et politiques migratoires dans des espaces en crise, l'effet des révolutions de 2011 en Libye et en Arabie Saoudite. Voilà. Prenez bien note. À bientôt.
C'est 9h30 à l'IEP. Hein.
9h30 à l'IEP et 10h le 27 avril à la MMSH.
27h.
Et merci encore à Charles Grémond et Cédric Parizeau.